BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Guillaume Paul.
Bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Merci d'avoir choisi BFM Business plutôt que France Pologne. Vous avez raison, si ça se trouve, il se passera plus de choses ici que là-bas sur le terrain. Il se trouve qu'on a beaucoup de choses à vous raconter ce soir, qui plus est dans l'actualité entreprise. Ça nous changera un petit peu la politique. D'abord, dans le luxe, Bernard Arnault qui met un petit pied chez Richemont. C'est pas anodin parce qu'on lit, on entend depuis un certain temps que LVMH s'intéresse de très très près aux géants suisses du luxe. On va voir ça avec Pauline Tadevin dans un instant. Journée cauchemardesque sinon pour les titres Airbus à la Bourse de Paris. Il a perdu un peu plus de 9%. Jean-Baptiste Huet va nous raconter ce qui s'est passé. Les programmes électoraux, bien sûr, on va continuer à les fouiller ce soir sur BFM Business. Dans un quart d'heure, Edwige Chevrillon recevra le spécialiste des finances publiques François Eckel. Et la constitutionnaliste Anne-Charlène Benzina appuie de ses programmes électoraux. Entre autres, on parlera avec nos experts qui arrivent bien sûr dès 18h30. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, ça fait longtemps, très longtemps qu'on entend dire que LVMH, leader mondial du luxe, bien sûr, s'intéresse de très près au géant suisse Richemont. Eh bien, à en croire l'agence Bloomberg, bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Guillaume.
À en croire Bloomberg, Bernard Arnault aurait pris à titre personnel, je cite, une petite participation, je cite toujours, à son capital. Est-ce que c'est le début d'une action plus large? C'est une question qui se pose forcément, Pauline.
On est en mesure de vous le confirmer ce soir sur BFM Business. D'après nos informations, qui confirment celles donc, de Bloomberg, il s'agit d'une petite participation, hein, une petite ligne dans le portefeuille d'un fonds familial parmi des centaines d'autres, martèle une source qui précise qu'il n'y a rien d'autre à y voir et que cette prise de participation n'est pas du tout annonciatrice d'un éventuel rachat de Richemont par LVMH, d'autant qu'une telle opération se heurterait forcément aux autorités de la concurrence, nous dit Luca Solca, analyste chez Bernstein. Mais une petite phrase de Bernard Arnault fin janvier résonne aujourd'hui tout à fait différemment. Il déclarait alors qu'il n'avait aucune envie de déranger la stratégie de Johann Rupert, le patron de Richemont, qu'il considérait comme un dirigeant exceptionnel, mais que si Johann Rupert avait besoin de soutien pour maintenir son indépendance, il serait là. Après une approche de Kering, le patron de Richemont a soutenu que son groupe n'était pas à vendre. Il a dit aussi l'an passé qu'il était en contact permanent avec Bernard Arnault dans le respect mutuel de leur indépendance. La prise de participation de ce dernier, aussi minoritaire soit-elle, est révélée en tout cas alors que Kering est désormais occupé par tout un tas d'autres dossiers, dont le redressement de son navire amiral Gucci.
Absolument. On rappelle, Richemont, ce sont des marques prestigieuses, évidemment.
C'est Cartier, c'est Van Cleef & Arpels.
En tout un catalogue de belles marques. Voilà, en tout cas, pour ce petit mouvement.
Qui vont bien, en tout cas.
Qui vont bien, effectivement, comme va toujours bien le secteur du luxe. On ne cesse de le répéter, bien sûr, sur BFM Business. Merci, Pauline. Pauline Tadevin avec nous ce soir dans Good Evening. Le titre LVMH a progressé ce soir. On verra ça, bien sûr, avec Étienne Braque dans un instant. La journée était épouvantable, en revanche, pour le titre Airbus, qui a dégringolé ce soir d'un peu plus de 9%. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Pourquoi est-ce que ça a dégringolé? Pourquoi? Parce que le groupe annonçait ce matin, un, qu'il livrerait finalement moins d'avions que prévu cette année, deux, qu'il allait passer 900 millions de charges à cause de plusieurs programmes spatiaux qui ne se portent pas, eux, très très bien. Bah forcément, les marchés n'ont pas aimé, Jean-Baptiste. Hein.
Beau petit profit warning. Ouais. 770 avions livrés cette année contre 800 espéré. C'est la nouvelle prévision d'Airbus. Mois après mois, on se rend l'évidence, la chaîne de sous-traitance ne parvient pas à suivre la cadence des commandes. C'est particulièrement vrai, explique Guillaume Faury, patron d'Airbus, pour les aérostructures, les équipements de cabine et surtout les moteurs. La situation est telle qu'une fois encore, Airbus se retrouve avec ce qu'on appelle des planeurs, des avions sur le tarmac qui attendent leurs moteurs. Il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler à Toulouse. Alors les motoristes, justement, l'américain Pratt & Whitney, mis en cause par Guillaume Faury, mais également CFM International, qui est la co-entreprise de Safran et General Electric. Le patron de Safran, Olivier Andriès, l'a dit il y a quelques jours, la demande n'a jamais été aussi forte et l'offre jamais aussi fragile. Covid, guerre en Ukraine, troubles géopolitiques, choc énergétique, inflation, vous avez toute la chaîne de sous-traitance qui est malmenée depuis 4 ans et le retour à la normale est beaucoup plus long que prévu. La situation s'est même dégradée ces derniers mois, c'est ce qu'explique Guillaume Faury. Résultat des courses, Airbus modifie ses cadences de production. Le groupe avait prévu 75 avions par mois d'ici 2026, ouais. Des monocouloirs, et bien raté. et ce sera pour 2027, donc un an de retard. Et puis vous l'avez dit, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, puisque la division spatiale continue de souffrir. Airbus, ces derniers mois, a fait un petit peu le ménage dans ses différents programmes, et effectivement, résultat, le groupe passe une charge de 900 millions d'euros. Airbus qui revoit ses objectifs financiers à la baisse pour cette année. Le bénéfice opérationnel attendu sera autour, si tout va bien, de 5,5 milliards contre 7 milliards initialement prévus.
Bon, c'est quand même rare de voir Airbus à ce point chahuter à la Bourse de Paris.
Franchement, oui. Ouais, là, on a touché même le 11-12%, donc c'est rare. Ouais.
On a cumulé les mauvaises nouvelles. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, autre action sur laquelle ça s'agit depuis 24 heures, si vous suivez l'actualité des entreprises, vous êtes forcément au courant, c'est le titre Eurofins. Moins 16% hier, quelques pourcents de récupérés ce soir. Vous savez que le groupe a été accusé hier de malversation comptable, rien que ça, par le fonds américain Muddy Waters. Eurofins a réagi aujourd'hui et dément catégoriquement ces accusations. Hélène Cornet.
La bataille de communication a commencé. Eurofins dit vouloir fournir en temps voulu des réfutations plus détaillées, mais d'ores et déjà, le groupe liste tout un tas d'inexactitudes dans le rapport de Muddy Waters, à commencer par l'intégrité des comptes de l'entreprise, entièrement contrôlés et certifiés par des audits financiers. Si le revenu par employé est certes plus élevé que chez les concurrents, explique Eurofins, c'est en raison d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Tout est profondément calomnieux, conclut le patron du groupe, Gilles Martin, dans un communiqué, et n'a pour seul but que de tirer profit de la baisse du titre. Le laboratoire n'a pas abordé en revanche la question des transactions immobilières douteuses, un des arguments les plus sérieux de ce rapport, selon les analystes Dodo. Pour eux d'ailleurs, le vrai risque pour l'entreprise, c'est une atteinte à sa réputation. Contacté, Muddy Waters dit maintenir ses accusations contre Eurofins et rappelle que tout le monde commence par nier dans un premier temps, y compris Jean-Charles Naouri chez Casino.
Hélène Cornet, dans l'actualité ce soir, a priori, c'est fait. Ursula von der Leyen va repartir pour 5 ans à la tête de la Commission européenne. Un accord a été trouvé entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord aussi avec les principaux partis politiques européens. Tout ça devrait être entériné lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi du côté de Bruxelles. Puis quand même, un petit mot de la campagne des législatives en France. Avec le message ce matin du patron de l'UDP sur BFM Business, l'UDP qui défend les intérêts des indépendants. Lui demande une seule chose en fait aux candidats, c'est de ne pas lâcher sur la simplification du travail et la simplification administrative. Écoutez ce qu'il nous disait.
Cette loi, qu'on la porte, que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'un an et demi, plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que, comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on reparte pas de zéro, parce que dans 2 ans, il n'y aura encore plus rien.
Voilà le petit coup de gueule de Michel Picon, le président de l'UDP, ce matin sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Étienne Brack, bonsoir. Euronext, La Défense, comment ça s'est passé cette journée, Étienne, sur le CAC 40?
Bah écoutez, après avoir gagné plus d'1% hier, le CAC 40 rend 0,58% aujourd'hui. Sans Airbus, il serait quasiment stable. Mais figurez-vous qu'avec une capitalisation de 70 milliards, avec une baisse de 10%, forcément l'impact n'est pas neutre. Moins 9% ce soir pour Airbus après son warning. Dans le sillage, vous avez Safran qui cède plus de 3%, Thales moins 2%, General Electric qui perd quasiment 2% également ce soir à la clôture. Heureusement, le luxe est là pour amortir le coup avec des hausses de plus d'1% pour LVMH. Vous avez Richemont avec donc cette nouvelle qui prend plus de 3% ce soir à la clôture à Zurich. Et puis à commencer à noter que vous avez certaines publications hors CAC 40 qui se passent pas très bien. Regardez du côté de Trigano, les camping-cars moins 6% avec un secteur qui est en train de se normaliser, des perspectives qui peinent à convaincre. Le titre perd donc quasiment 6% ce soir à la clôture à 112,90 €, et donc un CAC 40 qui cède du terrain moins 0,58% sous les 7700 points à 7662 points.
Merci beaucoup. Coucou Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est bien sûr à la mi-séance. Le Dow Jones perd 0,8%, 39 101 points en ce moment. L'indice Nasdaq de son côté qui s'envole d'1,1%. 17 693 en ce moment. Il est 18h09. Deux invités avec Edwige Chevrillon dans un instant pour évoquer l'actualité des législatives. La constitutionnaliste Anne-Charlène Benzina et le spécialiste des finances publiques François Eckhall. La grande interview à suivre sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir à 5 jours du premier tour de l'élection législative, car il y a beaucoup de questions sur la table. La question d'abord constitutionnelle, pour savoir, ben, par exemple, est-ce que session extraordinaire est obligatoire ? En fait, pas du tout. Quelles sont les conditions pour cette session extraordinaire ? Le budget 2025, est-ce qu'on pourra le voter ou pas ? Qu'est-ce qui se passera ? 49-3, mais quid ensuite ? Et puis aussi d'autres questions, bah tiens, par exemple, si le président démissionne, on en parlera avec Anne-Charlène Benzina, constitutionnaliste, qui est déjà avec nous. Bonsoir Anne-Charlène.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. En face de vous, François Eckhall. François Eckhall, il est président de Fipeco, c'est le meilleur teneur des écritures, des comptes publics. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être là. Pour vous, les questions, bah, elles sont un peu évidentes. J'imagine que vous avez écouté d'abord le grand oral que j'ai fait passer aux différents candidats sur le programme économique devant le MEDEF. Et surtout, depuis vendredi, il y a eu la présentation chiffrée. Alors, il y a tous les économistes qui sont là pour justifier toutes ces dépenses ou ces chocs fiscaux. Mais en fait, bien sûr, il y a des recettes. Hier, c'était le Front National, le Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, François Eckhall ? Est-ce que, ou plutôt, est-ce que vous êtes rassuré ?
Ah non, je ne suis pas rassuré.
Vous avez entendu.
Je ne suis pas du tout rassuré. Si je m'en tiens aux finances publiques, parce qu'on peut ne pas être rassuré pour des tas d'autres raisons.
Voilà. Non, on parle pas de politique, on parle de finances publiques et de constitution.
Voilà, donc ce que je constate, c'est que, bon, il y a en effet, surtout du côté du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National, plein de dépenses publiques difficiles à chiffrer, donc avec des chiffrages, voilà, on a beaucoup de chiffrages.
Donc vous ne croyez pas les chiffrages.
La seule certitude, c'est que même si on tient compte des économies qui sont annoncées, ou des hausses d'impôts, d'ailleurs, souvent des hausses d'impôts, on a devant nous une aggravation du déficit public de quelques dizaines de milliards d'euros. Bon. Du côté du centre, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Mais en revanche, ce qu'on oublie du côté du centre, c'est de faire des économies. Oui. Il n'est plus du tout question de faire des économies. Oui. Et donc moi, j'ai fait un petit calcul très simple, qui consiste à dire, dans l'hypothèse la meilleure dans ce scénario, c'est que les dépenses nouvelles soient quand même financées par des économies, mais qu'on ne fasse rien de plus. Voilà, pas d'économies. Et donc dans ces conditions-là, le déficit public actuel, il peut diminuer un tout petit peu, mais très peu, avec des hypothèses macro un peu optimistes aussi. Le résultat, c'est qu'on a une dette publique en 2030 qui est automatiquement supérieure à 120% du PIB. Voilà. Donc la dette publique augmente inévitablement, et quand je dis 120% du PIB, je suis sûr qu'elle sera au-dessus. Je pense qu'elle sera très nettement au-dessus. On va vers les niveaux italiens, hein,
alors,
en fait.
Ouais, d'accord. Bruno Le Maire a dit qu'il y a un risque. Si éventuellement les deux extrêmes l'emportent, il y a un risque de mise sous tutelle du FMI. Là, on agite le chiffon rouge, vous croyez pas, vous y croyez pas?
Alors, c'est pas le FMI. On est en Europe, donc ça sera pas le FMI. Le risque, en effet, c'est que les marchés, voyant ce dérapage de la dette publique, se mettent tout d'un coup à s'inquiéter, donc demandent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et à ce moment-là, la grande question, c'est pas que va faire le FMI, c'est que fait la BCE.
On peut avoir les deux, si je puis me permettre. Hein. Là, c'est la Grèce, elle avait les deux. La Grèce, elle avait les deux, hein, François Eckhall.
Oui, mais parce qu'on avait créé avant, maintenant, il y a une espèce de FMI européen. Et la BCE a les moyens d'intervenir aujourd'hui. Et c'est ça, la raison pour laquelle je pense que les marchés ne s'inquiètent pas trop pour le moment. En dehors du fait qu'ils ne savent pas ce qui va se passer exactement, donc ils attendent. Ils savent que la BCE a les moyens juridiques et financiers pour intervenir, acheter en quantité illimitée les titres d'un État en difficulté. Le problème, c'est qu'elle ne peut le faire que sous certaines conditions. Il y a deux conditions. La première, c'est qu'on respecte les règles budgétaires européennes. Et la deuxième, c'est qu'on ait un endettement public soutenable, comme disent les économistes. Ça veut dire à peu près la même chose que respecter les règles. Ça veut dire quand même donc faire des efforts de redressement des comptes publics.
C'est colossal, parce que pour l'instant, on ne respecte aucune règle.
On ne fait aucune. Alors, donc, dans ces conditions-là, si les marchés s'inquiètent, le premier scénario, c'est la BCE intervient quand même. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a moins de deux ans, la Banque d'Angleterre est intervenue, fait discrètement comprendre au gouvernement en question qu'il faudrait quand même changer de politique économique, on change radicalement de politique économique. L'autre hypothèse, c'est le gouvernement en question, qu'il soit à gauche ou à droite, ne veut rien entendre et dit à la BCE, mais de toute façon, vous nous soutiendrez toujours parce que nous sommes too big to fail. Ouais. Vous ne nous lâcherez jamais parce que si vous lâchez la France, c'est la zone euro qui explose. Ouais. Mais je pense que les marchés ont ça en tête.
Ouais,
c'est-à-dire qu'ils se disent
tort,
que de toute façon, la BCE sera toujours là. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que le scénario avec une dette à 120 ou 125 ou 130% du PIB, il n'est pas improbable. Et il se peut très bien qu'on arrive à ce niveau d'endettement sans qu'il ne se passe rien sur les marchés, simplement parce qu'ils savent que Mme Lagarde peut avoir un fusil atomique dans la poche et qu'elle peut, elle peut intervenir massivement.
Il y a un point qui met en avant beaucoup le Rassemblement National, c'est le fameux audit sur les comptes publics en disant on ne fera rien par la réforme des retraites avant. C'est l'audit, parce qu'on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis. Vous qui auscultez, vous êtes un peu la terreur de Bercy, est-ce qu'il y en a beaucoup sous le tapis ?
Enfin, alors, je termine juste. Le risque pour moi, à un horizon de très long terme, c'est même si la BCE intervient, etc., c'est un éclatement de la zone euro. C'est-à-dire qu'à très long terme, ceci, même si la BCE nous soutient et si on fait n'importe quoi, les autres pays ne l'accepteront pas. Donc un jour ou l'autre, il y aura un éclatement par la sortie d'un pays du Nord, pas un pays du Sud, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient protégés par l'euro, mais la sortie d'un pays du Nord de la zone euro.
Ouais.
L'histoire se terminera comme ça.
Ah là, vous n'employez même pas le conditionnel. Hein.
On est parti pour. Hein.
C'est très grave.
On est parti. Non, moi, je suis très, très inquiet.
Donc, il y a un risque.
On est parti. C'est pas le FMI, moi, je vois.
De la zone euro.
Et après, ça sera le FMI. Parce qu'une fois qu'on sera sorti de la zone euro, là, ça sera le FMI.
Ouais.
Et donc, pour ce qui est de l'audit, je pense que il y a toujours eu des audits au moment des grandes alternances. Je les ai fait d'ailleurs moi-même, j'en ai fait 3 ou 4. Ce que montrent ces audits en général, c'est que les prévisions techniques du ministère des Finances sont plus pessimistes que les prévisions officielles.
Ouais.
Ceci dit, pour cette année, en fait, on n'aura pas beaucoup de surprises parce qu'on le sait déjà. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a fait une enquête sur place à Bercy en mars dernier et il a obtenu ce que n'avaient jamais obtenu ses prédécesseurs jusque-là, c'est d'ailleurs toutes les prévisions internes de Bercy. Et donc en fait on sait à peu près de quoi il retourne pour 2024 et 2025. Donc il n'y aura pas vraiment de surprise. Après, l'audit des finances publiques, ça a toujours été utilisé aussi en termes de communication mes prédécesseurs avaient caché des tas de choses horribles, etc. Donc je n'applique pas mon programme, je commence par un tour de vis parce que on nous avait caché des choses.
Un chiffre avant de passer la parole à Anne-Charlène Bézina sur la dette Covid, en fait, sur les 1000 milliards d'augmentation qui sont dues à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Il y a un tiers, grosso modo, qui est dû à la dette Covid
moins. Il y a beaucoup moins. Moi, ce que j'ai dit à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est que, en fait, la dette a augmenté de, si je me souviens pas, c'est pas tout à fait 1000, c'est 950, quelque chose comme ça, depuis fin 2016. En fait, le problème, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu en 2016, on n'est pas parti d'un déficit zéro. On est parti d'un déficit qui était déjà très, très élevé. Et si on avait et ça, c'est l'histoire de 50 ans de dérive des finances publiques. Si on avait simplement maintenu ce déficit pendant toute cette période, la dette aurait de toute façon augmenté de 650 milliards d'euros.
Ah, d'accord.
Plus de la moitié.
Ah, oui.
Et donc, en fait, le Covid en lui lui-même.
C'est le montant des taux d'intérêt, les 650 milliards, enfin des remboursements.
Oui, des remboursements, oui, oui, sur plusieurs années. Oui. Oui. Et donc le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc., ouais. Ça explique 10% de la hausse de la dette, mais pas tellement plus. Hein.
Merci beaucoup François Eckhardt, surtout restez avec nous, parce qu'à mon avis, ce que va nous dire Anne Charlin, ça va aussi vous. Vous inquiéter. Voilà, j'hésitais entre quel mot j'allais utiliser. Anne-Charlène Besnier, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Beaucoup de questions à vous poser, notamment effectivement sur la faisabilité du budget 2025 pour une session extraordinaire. Juste d'abord un mot sur Macron. Emmanuel Macron qui a dit il y a un risque de guerre civile. Les programmes des deux extrêmes mènent à cette guerre civile. C'est ce qu'il a dit en tous les cas dans un site Génération Do It Yourself. Est-ce que la Constitution prévoit quelque chose en cas de guerre civile?
Alors, c'est simple, dans notre Constitution, on a la déclaration de guerre, qui est l'article 36, oui. Mais bon, là, on serait quand même très loin. Et tout dépend de ce qu'on entend par guerre civile. Est-ce que c'est la guerre des uns contre les autres? Est-ce que c'est une forme de désunion nationale? Mais ce terme de guerre civile, à mon avis, il faut faire attention à comment on l'entend constitutionnellement. Parce qu'il y a un article 16 dans notre Constitution qui permet au président de la République d'actionner les pleins pouvoirs, dont on a entendu parler un petit peu ces dernières semaines. Plein pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, il a l'exécutif entier, tout le législatif et même le judiciaire. Mais pour ça, il faut deux conditions. Un trouble grave sur les institutions de la République, sur l'intégrité de notre territoire, les traités, alors peut-être cette guerre civile justement. Et la deuxième condition, c'est une interruption du fonctionnement normal de nos pouvoirs publics, le gouvernement,
l'Assemblée
nationale.
Il y a beaucoup de subjectifs dedans, non ?
Ça fait beaucoup de conditions. L'idée de l'actionner, c'est quand même un moment politique très grave qui fait vraiment penser à une dictature présidentielle. Le seul précédent qu'on a, c'est le général de Gaulle. Après, le putsch un petit peu des généraux d'Alger qui avaient dit « nous allons marcher sur Paris ». Sauf que le risque, c'est l'accoutumance. Le général de Gaulle dissout le problème au bout de 10 jours et il garde l'article 16 pendant un an. Donc le Conseil constitutionnel peut maintenant arrêter l'article 16 en 30 jours. Mais j'espère que ce terme de guerre civile ne fait pas appel à cet article 16 qui, à mon sens, repose sur des conditions tellement graves qu'on le garde. Le constitutionnaliste Jean Gicquel nous dit que c'est la grosse Bertha. Donc, d'accord. On n'en est pas à la grosse Bertha.
Seul le Conseil constitutionnel peut s'y opposer, s'opposer à la décision du président de la République dans les 30 jours.
Alors, c'est les oppositions qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel au bout de 30 jours. Et si les oppositions ne le font pas, eh bien, c'est le Conseil qui s'auto-saisit lui-même au bout de 60 jours. Donc, on pourrait envisager, dans le pire des cas, que le président de la République fasse ça tout seul et garde 30 jours d'application. Mais encore une fois, cette hypothèse ne paraît évidemment pas sérieuse dans l'état actuel de notre Constitution et dans l'état actuel de la France.
Qui décide une session extraordinaire à l'Assemblée nationale? Alors, ça dépend évidemment s'il y a une majorité absolue, majorité relative, mais s'il y a une majorité... c'est le président qui décide.
C'est le président qui décide.
Il peut dire non.
C'est l'article 29 de notre Constitution qui nous le dit. Mmh. Et on a un antécédent, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, mais le général de Gaulle avait essayé aussi à sa manière. En fait, tous nos présidents de la République l'ont plutôt senti comme un pouvoir propre, c'est-à-dire je décide ou non de convoquer cette session. Valéry Giscard d'Estaing, justement, à un moment, refuse même pendant quelques temps. Mais c'est une coutume de laisser l'Assemblée nationale se réunir lorsqu'elle en a besoin. J'ajoute que la session extraordinaire de l'été, celle qui interviendra après la dissolution, elle est de droit, elle est obligatoire, elle est inscrite dans l'article 12 de notre Constitution. Après la dissolution, eh bien, il faut une session pour nommer tous les organes directeurs, pour lancer le travail dans les 15 jours après le fameux 8 juillet.
Et donc, elle dure combien de temps?
Alors là, pour le coup, ça va dépendre de l'ordre du jour. Donc, elle est obligée de se réunir et après, suivant les textes qu'on inscrit, elle peut durer 15 jours, 3 semaines et voire privée de vacations.
D'accord, parce que la question, ça va être aussi bientôt, François Eckel, ça va être une loi de programmation.
Une loi rectificative.
Oui, une loi de finances rectificative. Hein, absolument. Alors, ça nous amène au budget 2025, un budget très très compliqué à faire, quelles que soient les hypothèses du reste. C'est un peu le budget introuvable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte, il y a un budget qui est présenté par le gouvernement. À ce moment-là, il n'est pas accepté, donc on peut avoir un 49-3. Mais le 49-3, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que la motion de censure que peuvent déposer des oppositions, c'est parce qu'il y a un risque de dissolution, donc ils peuvent avoir peur derrière. Là, il n'y a pas de dissolution avant un an au moins. Donc comment est-ce que vous voyez cet engrenage ?
tout dépend de la majorité obtenue par le gouvernement qui va sortir des urnes. Est-ce que c'est une majorité relative dans ce cadre-là? Eh bien, on retombe sur un scénario très quatrième république, c'est-à-dire, eh bien, les gouvernements en place, au moment de la composition de leur budget, eh bien, jouent leur place. Les motions de censure, les oppositions se coalisent et le gouvernement tombe. Sauf que si c'est une majorité absolue qui sort des urnes, eh bien, le gouvernement ne craindra pas la motion de censure. Donc, les motions de censure de l'article 49.3, eh bien, amèneront, comme les budgets depuis 2022, à une adoption sans discussion. Sauf que, dans tous les cas, même si on débordait au-delà du mois de décembre, qui est la limite budgétaire, fiscale, financière, comptable de la France,
en plus,
eh bien, il y a un article 47 qui nous dit que le gouvernement peut prendre le budget par ordonnance, au moins pour permettre à la France de fonctionner et de prélever les impôts. Donc, c'est un moment très gouvernemental. Si la majorité est absolue, eh bien, elle passera son budget.
Oui. Donc, il y a un délai quand même. Oui, donc il y a un couperet qui tombe au 31 décembre.
Exactement. Ouais. Pour faire fonctionner la France, parce que au 31 décembre, il faut avoir perçu les recettes, les impôts, et surtout pouvoir fonctionner. L'année budgétaire, elle est au 31 décembre, comptable, financière, fiscale, elle est vraiment cardinale. Donc, pour faire fonctionner la France, eh bien, il faudra un peu, pour éviter les shutdowns à l'américaine, eh bien, il faudra justement un budget par ordonnance.
Mais
un budget de poche.
À votre avis, alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, François Eckel, est-ce qu'il y a un vrai risque de shutdown? Si on est dans le scénario, évidemment, majorité relative.
S'il y a un scénario majorité relative, un risque de shutdown, je ne pense pas, parce que justement,
l'article 47
prévoit cette idée de l'adoption par ordonnance, mais on aura un budget très restreint politiquement. Donc un budget, on va dire, de stabilité, voire même d'attentisme sur un plan politique. Parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, il faut voter des choses très consensuelles. Et là, ça risque de poser plus de problèmes. J'ajoute que l'audit des finances, c'est aussi une forme d'insulte faite au Parlement, parce que tous les ans, le Parlement fait son audit. Le Haut Conseil des Finances Publiques fait son audit. On a la Cour des Comptes aussi qui assiste le Parlement. Donc, on a déjà de l'évaluation de nos chiffres financiers. Et cette évaluation, eh bien, elle a été en plus corrigée en cours d'année. Donc, je vous rejoins largement, on n'aura évidemment pas de surprise avec cet audit. On est déjà dans une situation financière très compliquée.
François Eckel, un commentaire là-dessus, sur le budget introuvable? Non, vous allez observer et après vous allez décrypter. Il y a aussi un point qui provoque beaucoup d'interrogations sur le plan de la constitutionnalité, même si c'est plus politique, c'est sur les binationaux, qui est dans le viseur du Rassemblement National. Il y a eu un tweet cet après-midi de Marine Le Pen qui dit, attention, c'est une fake news, pas du tout, parce que l'idée, c'est que le Rassemblement National veut interdire à des postes stratégiques des binationaux. Alors, elle a reprécisé, Marine Le Pen, tout à l'heure, en disant, attention, poste stratégique, c'est vraiment que la défense, enfin, vraiment hyper stratégique. Mais est-ce que c'est possible ou pas?
Alors déjà, ça existe, en fait. Tous nos emplois dits de souveraineté, et là, même la Cour de justice de l'Union européenne est d'accord avec nous, et bien sont réservés aux Français. C'est-à-dire que même un ressortissant italien, portugais, et bien de l'Union européenne ne peut pas accéder à ces emplois parce qu'ils sont réservés aux Français pour des raisons stratégiques, précisément. Donc, ça, c'est pas le mot emploi stratégique, mais c'est le mot emploi de souveraineté qui met en cause les prérogatives de notre État. Donc, le risque d'ingérence étrangère, il est assez limité, notamment parce que pour vous recruter à ces postes-là, et bien l'administration a des moyens particuliers de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes de conflits d'intérêts personnels, professionnels, sur votre passé, sur vos études, sur votre lien avec votre État. Donc, l'ingérence étrangère, elle est impossible. La seule différence, et je termine Edwige, c'est la différence entre les nationaux et les binationaux. C'est la seule chose que changerait le texte du Rassemblement National. Et ça, à mon avis, c'est complètement inconstitutionnel. Parce que un binational, c'est un national, c'est un Français. Donc, distinguer entre les Français, il faut un motif d'intérêt général. Et là, je ne le vois pas.
Juste un point sur l'exonération des impôts moins de 30 ans. Une disposition du Rassemblement National. Constitutionnel, pas constitutionnel?
À nouveau, il faut un motif d'intérêt général pour distinguer entre les Français. Est-ce que le critère des moins de 30 ans est vraiment quelque chose qui est pertinent fiscalement? Un motif. D'accord. Le Conseil va très loin, il nous demande des critères objectifs et rationnels. Donc, est-ce objectif et est-ce rationnel? On verra.
Voilà, soyons objectifs et rationnels. Merci beaucoup Anne-Charlène Bélisa. Merci beaucoup François Eckel, c'était absolument passionnant, on aurait pu continuer. Beaucoup de questions, vous reviendrez surtout.
Avec plaisir.
Tout de suite, les infos avec Guillaume Paul.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. A priori, cette fois, c'est fait. Ursula von der Leyen va repiler pour un mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Un accord a été trouvé entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord également entre les principaux partis politiques. Tout cela devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi prochain du côté de Bruxelles. Du côté de l'actualité des entreprises, c'est une information que BFM Business est en mesure de vous confirmer ce soir. Bernard Arnault est entré au capital du géant suisse du luxe Richemont avec une petite participation, Dixit, les infos de l'agence Bloomberg que nous vous confirmons ce soir. Le Suisse Richemont, propriétaire entre autres des maisons Cartier ou encore Van Cleef & Arpels. C'est puis journée épouvantable pour le titre Airbus à la Bourse de Paris. Il a perdu plus de 9%. Pourquoi ? Parce que le groupe a fait un profit warning ce matin sur ses perspectives financières pour l'année 2024. Il livrera notamment moins d'avions que prévu. La commande est forte, mais la sous-traitance a beaucoup de mal à suivre le mouvement. 18h32, on vient dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos experts pour continuer bien sûr à décrypter l'info ensemble. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, on est reparti. Good evening business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous, comme tous les soirs jusqu'à 20h sur BFM Business. Et nos experts, ils sont là. Jackie Isabello, bonsoir Jackie, fondateur du
cabinet
Parlez-moi d'Impact. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi BFM Business plutôt que TF1. Il se passe pas grand-chose, hein. Donc vous voyez, vous êtes aussi bien ici.
C'est quand même beaucoup plus intéressant.
Mais non, aussi. Il se passe rien, donc vous êtes aussi bien ici pour commenter l'actualité. Edwige est avec nous, rebonsoir. Edwige.
Bonsoir.
On écoutait Charles Bézina qui nous disait, constitutionnaliste, donc on le rappelle, qui nous disait « Mon Dieu, on est devant des semaines, des mois qui s'annoncent haut en couleur. Échéance du budget 2025, évidemment, dont beaucoup parlent en ce moment, mais qui va être le gros morceau de la fin de l'année. »
Ben c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations pour savoir... Alors, évidemment, ça dépend s'il y a une majorité absolue. Là, le scénario, il est assez simple. Hein, donc, il a peu...
Mais scénario assez improbable.
Scénario un peu improbable. Ouais. Enfin, assez improbable et à la limite, on ne sait pas si on doit le souhaiter ou pas, mais ce n'est pas la question. En tous les cas, ça veut dire qu'à partir de là, il faut trouver une majorité. Ou alors, on fait un 49-3. Mais le 49-3, derrière, vous trouvez... derrière, il y a une motion de censure. À ce moment-là, c'est une motion de censure contre le gouvernement. Ça tombe.
Forcément. Bah,
si ce n'est qu'il n'y a pas de dissolution possible. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions. Et donc, heureusement, il y a une constitution qui a l'air quand même assez bien faite, je trouve.
Voilà.
Il y a l'article 47 qui dit que, de toute manière, il faut bien prélever les impôts, il faut bien verser toutes les contributions. Et donc, à partir de là, au 31 décembre, il faut qu'il y ait un budget.
Mais c'est un budget minima, c'est ce qu'elle nous dit, en fait.
Oui, mais enfin, il y aura quand même un budget, donc il sera adopté. Un minima, mais il sera adopté.
Voilà, mais en fait, c'est ce que j'ai retenu de positif, c'est un peu le seul point positif, en effet, de cet échange, c'est que quoi qu'il arrive, on va avoir un budget et qui serait, en effet, adapté par ordonnance, mais au moins pour assurer que la France continue de fonctionner.
Mais le shutdown n'est pas possible en France.
Contrairement aux États-Unis.
Charles Mézina
on en a parlé, pas possible en France,
alors que c'est tout à fait possible aux États-Unis, et ça permet de mettre la pression sur tout un tas d'acteurs de l'opinion publique et de forcer les uns ou les autres à lâcher. Donc la France ne peut pas fonctionner comme ça. Après, ce qu'il faut quand même dire aux gens, et notamment quand on parle d'économie, c'est que la Ve République, elle a été construite pour gérer, et on ne le dit jamais, des situations minoritaires. Quand De Gaulle met en place la Ve République,
il
est politiquement minoritaire. Donc il avait prévu ça, et le 49-3 est l'outil magique. C'est pour ça que je me souviens ici d'avoir piqué une colère sur votre plateau face à une énarque qui n'arrêtait pas de dire que le 49-3 c'était la dictature. C'est une hérésie. Sortir de l'ENA et dire un truc comme ça, c'est pas possible. Donc la Ve République, elle est prévue quand même pour gérer ce genre de choses. On dit trop souvent qu'il faut avoir des majorités pleine. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'elle a été construite, la majorité, du point de vue de De Gaulle et Debré. Donc il faut le dire aux gens et il faut le dire au marché. Après, les deux exercices qui ont été décrits, ils nous offrent effectivement un exercice très très long, et nous avons prévu dans cette constitution des outils qui impliquent que ça doit être voté, et donc que l'État assure cette fameuse continuité qu'on commente aujourd'hui, puisqu'on dit alors est-ce que les fonctionnaires vont se retourner, vont se révolter, vont être au contraire extrêmement fidèles. Non, les fonctionnaires, ils sont là pour assurer la continuité de l'État. Oui. Et vous avez vu que c'est prévu, même sur des choses qui, ici chez Business, sont essentielles. l'argent, oui. Le business.
Oui. Oui.
Enfin, juste quand même sur le 49.3, Jackie, même si on est d'accord en effet que c'est un outil qui permet au pays de continuer d'avancer, quand il est trop utilisé, on est aussi d'accord sur le fait que ça prive le pays d'un dialogue démocratique et par conséquent, ça se ressent dans les urnes.
Dans ce cas-là, alors les ordonnances, ça prive et un chef qui décide. Et un chef qui chef, comme disait Chirac, ça empêche.
Entre utiliser le 49.3 une fois, 10 fois et 30 fois, il y a différence.
Avant, il pouvait être utilisé indéfiniment. Ouais. Depuis la réforme constitutionnelle de Sarkozy en 2008, il est limité en nombre et surtout il est limité en texte, on ne peut pas l'utiliser comme avant.
Ouais, donc aux questions financières et budgétaires.
C'est important de se dire que nous avons un outil désormais qui s'appelle la 5e République, qui existe depuis très longtemps, qui est quand même un outil très très stable par rapport aux autres, et on a prévu de temps en temps qu'il y avait des blocages, et ces blocages, il faut les faire sauter, parce que ça n'est pas la discussion parlementaire au bout du bout qui est la plus importante. C'est l'avenir d'un pays et le financement des emplois publics.
Et on se dit que Michel Debray, le père de la Constitution, avait quand même bien travaillé, bien
les choses. On dit au turiféraire de la 6e République, finalement, la 5e, elle a bien des vertus, finalement.
Ça c'est clair à tout point de vue.
Session extraordinaire du Parlement, alors il y en a une obligatoire. Hein,
c'est oui, ça, absolument.
Voilà, c'est ça, pour qu'on ait en tête le calendrier des prochaines semaines.
Voilà. Et après, elle dure 15 jours, avec les trois semaines, en fonction du calendrier, effectivement.
Oui. Bon. Mais alors, justement, puisqu'on parle du Parlement, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'elle vous a dit sur cette demande, sur cette annonce de Jordan Bardella, s'il était amené arriver à Matignon la semaine prochaine, de faire cette audite. Elle dit que ça serait une offense, justement, par rapport aux parlementaires, puisque c'est leur job, en effet, de s'assurer que les comptes...
Contrôler
les comptes. Sauf que, je rappelle que quand même, entre décembre 2023 et mars 2024, il y a 0,5 points de déficit qui sont sortis du chapeau.
Oui. Alors, oui, mais bon, and so what, j'ai envie de dire, c'est quoi
ça montre bien que le contrôle a ses limites.
Oui, mais le contrôle, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien que tout ça est quand même très aléatoire. Comme disait François Eckhall, c'est en fait, il n'y a pas eu tellement dérapage. Moi, c'est le point, pardon, je réponds pas tout à fait à votre question. C'est un point important qu'a soulevé François Eckhall. Vous savez, le grand débat est de dire, il y a 1000 milliards, ils savent pas gérer, les finances publiques, c'est la catastrophe, regardez dans quelle situation on se trouve, etc. En fait, le regard par rapport à cet audit public, que veut Jordan Bardella, c'est, qu'est-ce qui est responsable? Où est-ce qu'on a trop dépensé? Mais en fait, vu que, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y avait déjà un stock d'endettement considérable.
Oui.
Et sur les 1000 milliards, il y a 647 qui sont dus, en fait, au coût de cette dette. Donc finalement, il n'aurait dérapé que de 300, 350.
Alors voilà un argument qui n'a pas été assez utilisé par Bruno Le Maire.
Mais alors là, je suis complètement d'accord. Je suis très étonnée parce que s'il y a eu 300 milliards, 350 milliards sur le Covid, le coût de le choc énergétique qu'on a connu,
ça s'explique et ça se comprend.
Je veux dire, bon, voilà, c'est beaucoup, mais enfin, c'est pas 1000 milliards.
Ouais.
Et je comprends pas à ce moment-là. Donc, je pense que dès que j'ai fini ici, je vais passer un coup de fil à Bercy en disant mais pourquoi vous n'avez pas utilisé cet argument?
C'est quand même un vrai souci de com, Jackie, vous qui êtes communicant.
Bien exploité par l'opposition.
Je pense que dans ce propos un petit peu abscond de Jordan Bardella, on en parlait.
Ah pardon, je croyais que c'était les miens.
Non, pas du tout. J'en en parlais avec Audrey justement cette prise de position de Jordan Bardella par rapport à la Cour des comptes. En fait, il manie deux chiffons rouges. Le premier, c'est de dire le gouvernement nous a dit il y aurait tant de déficit budgétaire, et puis d'un coup, il nous a dit ah ben non, ce sera 5,5. Alors pour tous les fonctionnaires de Bercy, on pourrait lancer une enquête. Je pense qu'il y a énormément de gens, parce qu'il y a quand même des gens très très bons là-bas, qui avaient déjà prévu ce dérapage. Où est la manipulation politique? Je n'en sais rien. Deuxième chose, c'est que rappelez-vous, quand il y a eu la transition entre Emmanuel Macron et François Hollande, on avait parlé d'insincérité budgétaire.
Oui.
Insincérité budgétaire, c'est quasiment une peine de mort pour le business. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, voilà, ce qu'il dit à ses électeurs, c'est je regarderai ce qu'il y a dans la caisse et il nous prépare au fait
que
pour l'instant.
Et notamment
il est
la dette sociale. Jordan Bardella, que j'ai interrogé, seulement sur la question de dette sociale, où il dit que là, on va découvrir des tas de choses.
Question justement.
Oui, mais il y a des organes de contrôle. Alors, si c'est ça, il y a des tas d'inspections.
Question par rapport à ça, et on va reparler des retraites après. Peut-il découvrir quelque chose qu'il ne sache pas véritablement?
Vous savez, en France, on en parlera tout à l'heure. Vous avez décerné un prix du livre d'écho à un type qui a dit une chose incroyable. Je ne vais pas dire son nom parce qu'en plus, on en parlera plus tard. Il a dit. En France, on a deux énormes machines productrices de normes. Je dis perfection, mais énormément de normes. Ça s'appelle, un, le PLF, projet de loi de finances, deux, le PLFSS.
Oui.
Le PLFSS, il voit dans tous les coins. Je veux dire, toutes les administrations remontent des tas de choses. Donc, découvrir demain qu'il y aura 5 milliards de fraudes sur quelque chose qui proviendrait, soi-disant, de prestations sociales perçues de l'autre côté de la Méditerranée, vous voyez où je... Bon.
Alors, okay. Juste un tout petit point là-dessus. Bruno Retailleau, donc, président du commission du groupe parlementaire au Sénat, LR.
Alors lui, justement, il parle vraiment d'insincérité en termes de budget. Hein.
Parce que lui, il dit, le rapporteur donc, de la commission des finances au Sénat, on l'a envoyé à Bercy, ils ont été obligés de le recevoir. Et puis en plus, il y a des fonctionnaires qui étaient trop contents de lui donner des documents qui montraient qu'il y avait encore pas mal de choses planquées sous le tapis.
Effectivement.
Alors ça, moi, je pense, les sénateurs sont plutôt des gens assez sérieux, notamment Bruno Retailleau. Je pense que ça sera très intéressant d'essayer d'avoir ces documents pour voir combien...
Moi, ce que le politique
le fameux audit
a dit aux fonctionnaires de mettre sous le tapis. Mais que les fonctionnaires le découvrent, moi, j'y crois pas deux minutes.
Ouais, ça, bon, alors justement, puisqu'on est sur le sujet des élections législatives, alors quoi de neuf aujourd'hui? Alors, il y a une petite précision sur le sujet des retraites de la part du Rassemblement National qui ne s'est pas vraiment étendu sur les chiffres donc hier.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et le RN qui a apporté une petite précision, effectivement, sur les retraites. L'abrogation de la réforme, a dit ce matin le député RN Jean-Philippe Tanguy, et les réaménagements proposés par le parti, tout ça coûtera 9 milliards d'euros à terme, même s'il reste encore des questions sur ce que veut faire le parti. Vous avez compris la position du RN sur les retraites à ce stade, Jackie, ou ça reste...
Vous connaissez cette fameuse citation, si vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis...
Alan Greenspan,
c'est ce qu'on dit. Je crois que sur les retraites, personne n'y comprend rien. Ils sont emberlificotés dans ce sujet, découvrant chaque jour la masse de ce que représente le moindre point ou la moindre année de cotisation.
Mais vous vous rendez compte
concerne les retraites. 380 milliards, 700 000 personnes qui partent à la retraite cette année, c'est une cohorte de retraites, c'est des budgets gigantesques. Quand on augmente d'1%, les retraites complémentaires, c'est 15 milliards. Enfin, vous voyez, ce sont des masses budgétaires.
Le décalage d'un an de l'âge de départ à la hausse ou la baisse, c'est 15 milliards de recettes fiscales en moins. Ce chiffre.
Et d'autant plus que lors de la dernière réforme des retraites, Elisabeth Borne avait lâché énormément de choses sur les carrières dites longues ou les départs précoces, selon qu'on est positionné d'un côté ou de l'autre.
Alors sur les carrières longues, c'est 1,6 milliard, non?
Oui, c'est ça.
À un moment, il faudra qu'on arrête de s'envoyer des chiffres.
Mais alors justement, Edwige, puisque vous avez interviewé Jordan Bardella la semaine dernière, vous n'étiez pas tout à fait satisfaite de ses explications, c'était pas très clair. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus clair pour vous?
Bah, oui et non, c'est-à-dire qu'on est toujours au même point. C'est-à-dire que, il y a un point qui est clair, mais qui était déjà clair jeudi, c'était sur les 60 ans.
Oui, et les 40 annuités.
Voilà. Et les 40 annuités, ok. Après, j'abroge la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On est à 64 ans.
Oui.
Mais on reste à 64 ans, parce qu'on sera à 62 ans. Le retour à 62 ans ne se fera qu'après l'audit.
Oui.
Donc, pour l'élection présidentielle.
Donc, jamais.
Je pense pour l'élection présidentielle. Enfin, une chance que ça soit pour l'élection présidentielle.
J'espère que les marchés vont d'un coup lever le doigt et dire on ne dit jamais rien, mais on va vous faire voir comment on parle. Et généralement, vous le savez, ça s'est passé en Angleterre à l'époque de ce micro-budget tenté par Mme Truss. Les marchés ne disent rien jusqu'au moment où vous jouez un peu trop avec les retraites de la retraitée japonaise ou l'investissement de la retraitée japonaise. Et ça, c'est... Alors après, juste un point. Sur les retraites aussi, ce sur quoi il faudrait interroger Jordan Bardella, c'est dire, vous savez, tous les critères qui sont utilisés pour faire ces scénarios. Il y en a un qui est important, dont on parle quasiment jamais alors qu'on en parle partout, c'est le solde migratoire. Il fait partie des critères qui sont utilisés pour établir les scénarios de constitution des retraites. Le solde migratoire, si d'un coup il se réduit comme peau de chagrin, eh bien ce sont des budgets qui vont se réduire. Et on sait déjà que sur les 380 milliards de retraites, il y en a 257 milliards, c'est les cotisations. Ces cotisations, elles ont tendance à se réduire, vous voyez. Donc si le solde migratoire se réduit encore,
ça fait bien quid. Alors quand même, parce que justement, sur le sujet de l'immigration, c'est pareil, il y a eu une sacrée évolution du positionnement et de la sémantique de la part du RN qui parle aujourd'hui d'immigration de croissance. Donc on voit qu'ils reviennent aussi sur ce totem de l'extrême droite.
Edwige. Oui, non, ça reste quand même assez flou. Sur ce point-là, sur les retraites, j'ai juste un point. Est-ce que vous vous souvenez, parce que pour le nouveau Front populaire, Le retour à 62 ans, ils l'ont chiflé à 20 milliards de mémoire.
Oui.
Ah, donc les chiffres, ils correspondent pas complètement.
Non. Si 60 ans, c'est 80 milliards par an, si mes chiffres sont les bons.
Retour à 60 ans. Alors j'avais un chiffrage en tête de l'Institut Montaigne, je crois, qui était à 30-40 milliards dans ces eaux-là.
C'est des masses colossales, c'est des transferts absolument sur la base de cotisation. Non, sur la base de cotisation, en fait, c'est la manière de s'en sortir, mais ça prendra encore quelques années, du moins je l'espère. C'est la fin des générations des baby-boomers.
Oui.
Moi, je suis un peu baby-boomer, mais donc il faut attendre que je sois mort pour qu'il y ait un rétablissement.
Le nombre d'emplois se réduit, la productivité baisse. Donc, si on fait sortir les seniors, la productivité baisse.
Mais d'ailleurs, en fait, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que si on abroge la réforme, on revient aux régimes spéciaux?
Les régimes spéciaux, certains là, ne sont quand même pas concernés, vous l'avez vu. Il y en a quand même certains, et notamment avec la clause du grand-père, à qui on a dit on va laisser sortir gentiment tout le monde et uniquement les nouveaux sont concernés. C'est une manière de sortir de cette réforme des retraites des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.
Juste, puisque vous parlez des marchés, et ça va nous ramener à ce que disait François Haeckel, qui disait on voit que les marchés, effectivement, dans un premier temps, après la dissolution, se sont un petit peu emballés, et puis tout ça s'est calmé parce que les marchés, dit-il, ont une chose en tête, c'est que...
La BCE,
la Banque Centrale Européenne, sera là jusqu'à un certain point, et précise quand même si les choses devaient déraper. Jusqu'à un certain point.
Mais il fait plus que préciser. Moi, ce que j'ai retenu, qui est quand même très loin, parce que c'est un monsieur responsable, François Haeckel, c'est un peu le pape des comptes publics. Oui. C'est un professeur, il est très respecté, on est d'accord. Okay. Lui, il dit, je redoute, je pense qu'il y aura un éclatement de la zone euro. Donc moi, je ne pensais pas que ça irait, que le risque allait aussi loin. Oui. Et lui pense qu'il y aura un éclatement de la zone euro.
Il y aura un
pays du Nord qui va sortir. Et absolument, une fois qu'il y en a un qui sort, les autres vont suivre.
Oui, est-ce que ce n'est pas un peu pessimiste quand on sait qu'en 2020, la BCE a gonflé le budget de programme de rachat de dettes de 600 milliards d'euros, que par ailleurs, elle a déjà racheté des dettes souveraines de pays qui étaient en difficulté au sein de l'Union européenne pour éviter l'effet contagion. Je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas pour la France si
un jour,
on en avait besoin. Et on précise qu'on en est loin.
Oui, mais parce qu'il y a deux conditions. Il faut respecter les règles de Maastricht.
Oui, c'est ça.
Donc ça veut dire faire des économies et avoir justement le retour à une trajectoire.
Situation un peu injuste. C'est-à-dire que...
On est d'accord.
C'est-à-dire cette mise en péril financière dans les conditions qui sont soit on est attaqué par des fonds souverains, comme ça a pu être le cas. Si jamais c'est parce qu'un gouvernement décide de mener des politiques publiques qui sont dépensières,
parce qu'il anticipe le fait qu'un gouvernement d'extrême droite ou d'extrême gauche dirait effectivement au BCE, vous ne laisserez jamais tomber la France. Et lui, non, il ne faut pas partir du tout dans ce genre de calcul.
Il dit qu'effectivement, dès que la BCE ne le laissera jamais tomber, mais qu'il y en a un qui dira en haut, on va peut-être sortir de la zone euro.
Oui, mais Edwige, vous le savez mieux que moi, quand est-ce que l'UE a imposé vraiment le respect de ses règles économiques, pour le moment, combien de pays sont en procédure de déficit excessif et depuis combien d'années? Est-ce que les amendes ont été appliquées?
C'est quelqu'un qui les respecte, ça peut être le Danemark ou un autre,
Oui, mais ça a des effets très importants.
On est d'accord avec ça. Je vous dis juste que la BCE n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un effet de contagion au sein de l'Union européenne.
Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, ce qu'on ne dit pas, c'est que demain, ceux qui vont arriver au pouvoir, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, quand ils vont se mettre autour d'une table, ils vont dire maintenant, vous parlez autrement, on n'est plus en campagne, ils vont leur sortir les chiffres et ils vont leur sortir également les rapports d'intérêt qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, les impacts que ça peut avoir de prendre des décisions complètement déraisonnables comme ça veut dire dire que du jour au lendemain. Vous vous rappelez, quand on a commencé à commenter l'IRA, on s'était dit, ouais, les Américains, ils essayent un peu de nous faire peur. Il y en a qui disaient, ils vont le mettre en place, et d'autres qui disaient, à mon avis, c'est un espèce de chiffre.
Ouais, on s'est
et
vite
on a vu
rendu
qu'ils
compte.
L'ont mis en place de manière extrêmement
rapide.
Massive, efficace et rapide. Ouais. Si jamais ils demandent à leurs entreprises de cesser tout business en Europe, et je vous rappelle que c'est arrivé. C'est arrivé au moment de la première guerre du Golfe. Rappelez-vous, au moment de la première guerre du Golfe, l'ensemble des sociétés américaines s'est arrêté de faire du business en France et en Europe. Il y a énormément d'entreprises qui travaillaient avec des multinationales américaines qui sont tombées du jour au lendemain. Donc, ils sont capables de faire pression sur un gouvernement avec ce genre d'attitude, les Américains.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais déjà hier, c'est que quand vous rencontrez, ce que j'ai eu l'occasion de le faire ces derniers jours, des gens du private equity ou des représentants des grandes banques américaines, ils disent, tiens, on voulait renforcer le bureau à Paris parce que, justement, il y avait cette espèce d'attractivité. Là, on dit pause.
Oui, c'est ça, il y a un attentisme.
Qui va, voilà.
Qui peut durer longtemps.
Qui peut durer longtemps, voilà, c'est la bonne expression.
Quelques semaines, voire quelques mois.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, cet attentisme dont vous parlez, Nemige, il est là. Il vient de la part des investisseurs, mais aussi de la part des petits épargnants. On voit que, enfin, du plus petit portefeuille au plus gros, tout le monde, en effet, attend de voir.
Et on parlait du secteur de l'immobilier, là aussi, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Enfin, la liste est très longue. Deux minutes pour vous demander ce que vous pensez du fait qu'a priori, Ursula von der Leyen va rempiler à la tête de la Commission européenne.
Oh, quelle surprise.
C'était attendu. Voilà, quelle surprise. Accord trouvé entre les grandes capitales aujourd'hui, Paris et Berlin, entre les principaux partis politiques européens.
Ursula von der Leyen.
Doit-elle rempiler pour 5 ans, finalement, pour vous? On a deux minutes, là.
Maintenant, il n'y avait pas tellement d'autres candidats. Donc, l'Allemagne est en meilleure posture que nous. Non, elle n'avait pas vraiment de candidats. Thierry Breton, à un moment, a espéré se mettre dans la liste, enfin, se mettre en concurrence.
Ouais,
évidemment,
c'est raté.
Ça a été plus que raté. Enfin, il a rapidement décroché.
On ne lui a pas rendu service spécialement sur ce plateau, j'avoue, en parlant de dossier Atos à de bien nombreuses reprises.
Ouais. Et en même temps, dossier qui ne lui a pas vraiment porté préjudice. Voilà, je suis bien d'accord.
Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore, c'est les postes clés.
Oui.
Justement, parce qu'il y a deux niveaux. Emmanuel Macron dit qu'il avait été très attentif à ce que des postes clés au sein de la Commission européenne soient donnés à des Français. Jusqu'à présent, on avait un peu déserté. C'était vraiment sous la coupe allemande. Là, espérant qu'il a obtenu des directions importantes. Et puis maintenant, on va voir si Thierry Breton est vice-président, parce que c'est pour ça qu'il a été maintenu. Et s'il y a il n'y aura pas d'autres commissaires européens. Mais enfin, on va voir la position de la France, c'est ça
en tout cas.
Oui,
le nouveau président du Conseil européen, a priori, ça serait l'ancien chef du gouvernement portugais.
Oui, l'ancien président du gouvernement portugais.
Voilà, Antonio Costa.
Je ne sais pas si elle doit être reconduite ou pas, mais en tout cas, politiquement, mène bien cette reconduction. Un, il faut déjà qu'elle soit reproposée par son pays.
Oui.
Pas toujours gagné.
Oui.
Deux, elle a fait un débat des Spitzenkandidaten, pardon du terme un petit peu barbare, dont on avait... Alors vraiment rien à faire en France, hein, parce qu'il est passé complètement sous les radars. Et elle a fait une très bonne prestation. Moi, j'ai écouté Joséphine Staron, qui est une docteure en sciences politiques du think tank Sinopia, qui a fait un débriefing de cette émission, et elle a fait un très très bon exercice. Et puis là, elle est en train de réunir la majorité des présidents du Conseil autour de sa candidature. Maintenant, il restera une majorité des 720 députés du Parlement.
On lui prête justement l'intention d'aller draguer un petit peu les conservateurs.
Pour l'instant, elle se débrouille plutôt pas mal, alors qu'elle a pas mal, pas mal de choses à lui reprocher. Mais force est de constater quand même qu'au moment du Covid, où alors on était quand même tous démunis, eh bien, après cette crise, on se réunit tous pour dire qu'elle a pas trop mal géré le sujet.
Enfin,
elle a été parfaite surtout sur la défense,
sur les sujets de compétitivité et sur les sujets économiques. Force est de constater qu'il y a un vrai décrochage européen.
Bah, de toute façon,
elle n'est pas la seule responsable.
Il ne faut pas déresponsabiliser tout le monde.
Et sur les dossiers écologistes, le mot qu'on puisse dire, c'est que les industriels allemands ne lui disent pas merci. Hein. On en discutait avec un industriel qui nous disait, quand vous demandez au patron allemand du secteur industriel ce qu'il pense de Ursula von der Leyen, c'est quand même assez.
C'est vrai que sur ce sujet,
le pacte vert n'était pas venu pour ça, mais
elle a été Green Deal, puis après elle est revenue en arrière. Donc c'est vrai que la lisibilité de la politique qui a été portée, mais ce n'est pas la seule, n'est pas limpide.
Bien, ben voilà pour
pour cette première partie du débrief de l'actualité ce soir. Merci beaucoup. Jackie, on vous retrouve dans un quart d'heure. Vous revenez 19h15, 20h avec nous, bien sûr. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Évidemment. Oui, Augustin de Romanel, président des aéroports de Paris. Bon, ça y est, enfin, il y a la ligne Orly qui va... qui va enfin jusqu'à...
Que va devenir l'Orly Val?
Mais, ça, c'est une bonne question. Je vous remercie. Là, ensuite, plus sérieusement, bien évidemment, les Jeux Olympiques. Il y a le trafic, quand même, de voir le trafic en soi, comment ça se présente, est-ce que l'activité est soutenue ou pas. Et puis, il y a quand même toujours la question de sécurité, parce que là aussi, quand même, la France, on voit que Gérald Darmanin dit, mais de toute manière, tout est suivi, même s'il y a un changement de ministère, il n'y a pas de problème. Enfin, la France, elle est, plus personne ne la gère quand même depuis le 9 juin. Quoi.
Donc, beaucoup de questions à lui poser demain soir.
Ça sera demain soir, 18h10, Augustin de Romanès sur BFM Business. 18h57, nous, on revient dans un instant.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Merci d'avoir choisi BFM Business plutôt que France Pologue. Vous avez bien raison, il ne se passe rien. Hein, donc vous êtes aussi bien avec nous ici pour décrypter l'actualité économique. Beaucoup de choses ce soir. Dans l'actualité des entreprises, tiens, ça nous change un petit peu de la politique. Bernard Arnault qui met un tout petit pied chez Richemont. On va vous raconter ça. Journée cauchemardesque en bourse. Pour Airbus, on va voir ça aussi dans un instant. Et puis, on parlera de politique avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
Et oui, on va dire un mot d'Ursula von der Leyen, pour qui ça se précise. Elle devrait rempiler pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Et puis, bien sûr, on va continuer à fouiller les programmes électoraux des différents partis. Alors, le RN, de son côté, sort petit à petit de l'ambiguïté concernant le dossier des retraites. Mais ça reste encore un peu flou. Et puis, on dira un mot de cette étude qui nous dit que c'est en France que la concurrence sur les grandes lignes ferroviaires devraient être la plus forte d'ici quelques années, même si pour le moment, ça ne bouge pas vraiment.
C'est moins qu'on puisse dire. Alors, qui va revenir avec nous pour parler de tout ça? Le communicant Jackie Isabello va revenir. On sera avec Jean-Marc Sylvestre d'Atlantico. Et puis, on sera ce soir avec Dominique Corona, le secrétaire général adjoint du syndicat UNSA.
Voilà qui nous promet un débat musclé.
C'est le moins qu'on puisse dire aussi.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc ça fait très longtemps qu'on entend dire que LVMH, leader mondial du luxe, s'intéresse de très près au géant suisse Richemont. Eh bien, c'est une information que nous sommes en mesure de vous confirmer ce soir. Bernard Arnault a pris à titre personnel, je cite, une petite participation à son capital. Bonsoir Pauline Tadevin, est-ce que c'est le début d'une action plus large? Ça évidemment c'est une question sans réponse, Pauline.
On est en mesure de vous le confirmer ce soir sur BFM Business. D'après nos informations, qui confirment celles donc de Bloomberg, il s'agit d'une petite participation, hein, une petite ligne dans le portefeuille d'un fonds familial parmi des centaines d'autres, martèle une source qui précise qu'il n'y a rien d'autre à y voir et que cette prise de participation n'est pas du tout annonciatrice d'un éventuel rachat de Richemont par LVMH, d'autant qu'une telle opération se heurterait forcément aux autorités de la concurrence, nous dit Luca Solca, analyste chez Bernstein. Mais une petite phrase de Bernard Arnault fin janvier résonne aujourd'hui tout à fait différemment. Il déclarait alors qu'il n'avait aucune envie de déranger la stratégie de Johann Rupert, le patron de Richemont, qu'il considérait comme un dirigeant exceptionnel, mais que si Johann Rupert avait besoin de soutien pour maintenir son indépendance, il serait là. Après une approche de Kering, le patron de Richemont a soutenu que son groupe n'était pas à vendre. Il a dit aussi l'an passé qu'il était en contact permanent avec Bernard Arnault dans le respect mutuel de leur indépendance. La prise de participation de ce dernier, aussi minoritaire soit-elle, est révélée en tout cas alors que Kering est désormais occupé par tout un tas d'autres dossiers, dont le redressement de son navire amiral Gucci.
Absolument. On rappelle, Richemont, ce sont des marques prestigieuses, évidemment.
C'est Cartier, c'est Van Cleef & Arpels.
Dans tout un catalogue de belles marques. Voilà en tout cas pour ce petit mouvement.
Qui vont bien, en tout cas.
Qui vont bien, effectivement, comme va toujours bien le secteur du luxe. On ne cesse de le répéter, bien sûr, sur BFM Business. Merci, Pauline. Pauline Tadevin avec nous ce soir dans Good Evening. Le titre LVMH a progressé ce soir. On verra ça, bien sûr, avec Étienne Braque dans un instant. La journée était épouvantable, en revanche, pour le titre Airbus, qui a dégringolé ce soir d'un peu plus de 9%. Bonsoir, Jean-Baptiste.
Bonsoir, Guillaume.
Pourquoi est-ce que ça a dégringolé? Pourquoi? Parce que le groupe a annoncé ce matin, un, qu'il livrerait finalement moins d'avions que prévu cette année. Deux, qu'il allait passer 900 millions de charges à cause de plusieurs programmes spatiaux qui ne se portent pas, eux, très très bien. Bah forcément, les marchés n'ont pas aimé, Jean-Baptiste. Hein.
Beau petit profit warning. Ouais. 770 avions livrés cette année contre 800 espéré. C'est la nouvelle prévision d'Airbus. Mois après mois, on se rend l'évidence, la chaîne de sous-traitance ne parvient pas à suivre la cadence des commandes. C'est particulièrement vrai, explique Guillaume Faury, patron d'Airbus, pour les aérostructures, les équipements de cabine et surtout les moteurs. La situation est telle qu'une fois encore, Airbus se retrouve avec ce qu'on appelle des planeurs, des avions sur le tarmac qui attendent leurs moteurs. Il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler à Toulouse. Alors les motoristes, justement, l'américain Pratt & Whitney, mis en cause par Guillaume Faury, mais également CFM International, qui est la co-entreprise de Safran et General Electric. Le patron de Safran, Olivier Andriès, l'a dit il y a quelques jours, la demande n'a jamais été aussi forte et l'offre jamais aussi fragile. Covid, guerre en Ukraine, troubles géopolitiques, choc énergétique, inflation, vous avez toute la chaîne de sous-traitance qui est malmenée depuis 4 ans et le retour à la normale est beaucoup plus long que prévu. La situation s'est même dégradée ces derniers mois, c'est ce qu'explique Guillaume Faury. Résultat des courses, Airbus modifie ses cadences de production. Le groupe avait prévu 75 avions par mois d'ici 2026, des monocouloirs, et bien raté, ce sera pour 2027, donc un an de retard. Et puis vous l'avez dit, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules puisque la division spatiale continue de souffrir. Airbus, ces derniers mois, a fait un petit peu le ménage dans ses différents programmes et effectivement, résultat, le groupe passe une charge de 900 millions d'euros. Airbus qui revoit ses objectifs financiers à la baisse pour cette année. Le bénéfice opérationnel attendu sera autour, si tout va bien, de 5,5 milliards contre 7 milliards initialement prévus.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Huet, 19h06, autre action sur laquelle ça s'agit depuis 24 heures, c'est le titre Eurofins, moins 16% hier, plus 4% aujourd'hui. Vous savez que le groupe a été accusé hier de malversation comptable, rien que ça, par le fonds américain Muddy Waters. Eurofins a réagi aujourd'hui, il conteste radicalement ces accusations. Hélène Cornet.
La bataille de communication a commencé. Eurofins dit vouloir fournir en temps voulu des réfutations plus détaillées, mais d'ores et déjà, le groupe liste tout un tas d'inexactitudes dans le rapport de Muddy Waters, à commencer par l'intégrité des comptes de l'entreprise, entièrement contrôlés et certifiés par des audits financiers. Si le revenu par employé est certes plus élevé que chez les concurrents, explique Eurofins, c'est en raison d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Tout est profondément calomnieux, conclut le patron du groupe, Gilles Martin, dans un communiqué, et n'a pour seul but que de tirer profit de la baisse du titre. Le laboratoire n'a pas abordé en revanche la question des transactions immobilières douteuses, un des arguments les plus sérieux de ce rapport, selon les analystes Dodo. Pour eux d'ailleurs, le vrai risque pour l'entreprise, c'est une atteinte à sa réputation. Contacté, Muddy Waters dit maintenir ses accusations contre Eurofins et rappelle que tout le monde commence par nier dans un premier temps, y compris Jean-Charles Naouri chez Casino.
Hélène Cornet, dans l'actualité ce soir, a priori c'est fait. Ursula von der Leyen va rempiler à la tête de la Commission européenne pour 5 ans. Un accord a été trouvé apparemment entre les grandes capitales, Paris et Berlin. Accord aussi entre les principaux partis politiques européens. Tout ça devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu jeudi et vendredi prochain du côté de Bruxelles. Et puis un petit mot quand même de la campagne des législatives en France. Avec le message ce matin sur BFM Business du patron de l'UDP, qui défend les intérêts des indépendants, commerçants et artisans. Lui demande une seule chose, en fait, aux candidats, c'est de ne rien lâcher sur la simplification du travail et sur la simplification administrative. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on reprenne cette loi, qu'on la porte... Que le gouvernement qui arrive la porte, et puis dans les années qui viennent, puisque nous avions un rendez-vous annuel pour la réactualiser et aller plus loin dans les mesures de simplification, mais qu'on parte de la base de ce travail auquel nous travaillons depuis plus d'un an et demi, plutôt que de tout casser, tout virer, tout recommencer. Le pays, il est malade de ça. Il est malade de ces alternances où on dégage tout au motif que, comme c'était des gens avec qui on n'était pas d'accord, tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Non. Il faut que ceux qui vont avoir le pouvoir demain prennent un peu le recul nécessaire pour que ce qui est en attente dans la loi simplification qui correspond aux entreprises, ce qui est en attente dans la loi travail qui correspond aux besoins des petites entreprises, eh bien, ça soit repris, aménagé peut-être, rediscuté, renégocié, mais qu'on reparte pas de zéro parce que dans 2 ans, il n'y aura encore plus rien.
Voilà le petit coup de gueule ce matin de Michel Picon, le président de l'UDP, les artisans, les commerçants sur BFM Business. Et puis alors, on voulait dire un mot pour finir de cet événement qui se déroule là aujourd'hui et demain. Ça se passe du côté du CNIT à la Défense. La 3e édition des Assises du New Space. On y voit tout ce qui se fait en matière d'innovation spatiale. La start-up française Sirius, par exemple, construit, elle, des mini-lanceurs réutilisable. Et alors devinez quoi, elle produit ça juste à côté de la Défense, du côté de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Reportage sur le site de production, Zidane Azouzi.
Il n'y a pas si longtemps encore, ce site était occupé par un garage automobile. Aujourd'hui, dans cette usine, Sirius conçoit ces mini-lanceurs qui serviront à transporter des petits satellites, télécoms, surveillance. La start-up perfectionne en ce moment la conception du moteur de la fusée et s'appuie sur une technologie semblable à l'impression 3D. Luc Lacoste, responsable fabrication.
Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, des pièces, des chambres de combustion comme celle-ci, c'était à peu près 8 mois de délai et 400 000 euros. Aujourd'hui, on est capable d'en fabriquer une en 2 semaines pour un coût qui est diminué par un ordre de grandeur de 20 à peu près. En 1 mois, maintenant, on va être capable de fabriquer un moteur complet intégré dans nos locaux.
Résultat, la start-up n'a plus besoin de faire appel à des prestataires. Elle s'est fixé un plan de vol ambitieux avec 12 lancements par an à la fois depuis Kourou en Guyane et l'Europe continentale. Pour être compétitif, Sirius mise sur les économies d'échelle, détaille Antoine Fourcade, le cofondateur.
On développe une gamme de lanceurs, Sirius 1, 13 et 15. On va standardiser au maximum les composants. On développe une même gamme de composants, un même moteur. Ça nous permet à terme d'avoir une cadence de plus de 300 moteurs par an, mais on travaille aussi sur des lanceurs qui seront 100% réutilisables 10 ans après le vol inaugural.
Sirius envisage de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. L'objectif, atteindre les 300 salariés d'ici 2027. La start-up espère effectuer son premier lancement vers l'orbite d'ici un peu plus de 2 ans.
Voilà, Sirius qui construit des mini-lanceurs réutilisables, qui fait ça à quelques kilomètres de Paris, du côté de Colombes. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. 19h11. Eh ben nous repartons sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui perd 0,58%, 7662 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
C'est pas folichon à Wall Street apparemment là.
Bah non, parce que moins 10% pour Airbus, moins 3% pour Boeing, hein. Forcément, ah ouais. Airbus
par
n'est pas le seul.
Par sympathie comme on dit. Hein.
Voilà, c'est ça. Forcément, c'est des problèmes chez Airbus en termes de cadence. Il y en a sûrement également chez Boeing. Donc ça pèse sur l'indice Dow Jones. À l'inverse, vous avez un indice Nasdaq qui gagne 0,86% avec toujours une énorme dépendance à Nvidia. Hier, le titre a perdu 6%. C'est quasiment 400 milliards hein, qui sont partis en fumée. Pour vous donner un ordre d'idée, 400 milliards, c'est LVMH plus Kering. Voilà, juste pour planter le décor, c'est une boîte qui était encore, rappelez-vous, la semaine dernière, première capitalisation mondiale, qui redescend troisième aujourd'hui à 2900 milliards. Et donc après une baisse de 6% hier, le titre reprend un peu plus de 4% aujourd'hui. Donc forcément, le Nasdaq eh bien, prend des couleurs avec un indice qui est au-delà des 17 650 points. Quand donc le Dow Jones pénalisé par Boeing perd 0,8% à 39 081 points, le S&P 500 est parfaitement stable. C'est toujours très calme en termes d'actualité d'entreprise. Les investisseurs attendent qu'une chose, ils ont déjà sorti des pop-corns, c'est jeudi soir, le grand débat entre Donald Trump et avec Joe Biden, avec notamment Donald Trump qui aura le dernier mot. Vous savez, ça a été tiré au sort, et donc c'est Donald Trump qui aura le dernier mot de ce débat, hein. Donc ça sera pour nous dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, et donc ça, c'est très attendu aux États-Unis.
Organisé par la chaîne CNN, et alors j'ai lu aujourd'hui que quand l'un parle, le micro de l'autre est coupé, ce qui est
en effet,
les cafouillages et les...
Ça donne un petit peu l'ambiance.
Ça sera un peu tamisé, on va dire ça comme ça. Bon, on suivra ça, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup, Étienne. 19h13, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. On a beaucoup de choses ce soir encore. Ursula von der Leyen qui va rempiler à la priori à la tête de la Commission européenne. Les programmes électoraux qu'on va continuer de fouiller, de décrypter. Et puis alors, c'était très intéressant cette étude qui nous dit que d'ici quelques années, c'est en France qu'il y aura la plus forte concurrence sur les grandes lignes ferroviaires. Ça nous étonne parce qu'on peut, pour l'instant, on peut pas dire que la SNCF et le TGV soient vraiment perturbés par cette concurrence. Mais on parle de tout ça jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h17, c'est reparti, les experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov avec nous, bien sûr. Bon, la France mène à 0 face à la Pologne. Hein. Mbappé vient de marquer sur pénalty, je spoil, vous avez toutes les raisons de rester maintenant. Voilà.
Ça commence bien.
Ça commence très très bien. Jackie Isabello, restez avec nous. Rebonsoir Jackie.
Rebonsoir.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. Éditorialiste à Atlantico. Et Dominique Corona est avec nous, secrétaire bonsoir. Général adjoint du syndicat Une SA. Bonsoir.
Ça faisait longtemps, Dominique.
Oui, ça faisait longtemps.
Trop, voilà.
Ça faisait trop longtemps. Bien. Une fois c'est préliminaire, une fois que j'ai dit que la France menait 1-0, puisqu'on parle d'Europe, tenez, Ursula von der Leyen semble avoir bouclé son match à elle, puisqu'a priori, elle va rempiler à la tête de
la Commission européenne pour une durée de 5 ans. Ça devrait être entériné déjà dans un premier temps lors du sommet européen qui aura lieu en fin de semaine à Bruxelles. C'est pas vraiment une surprise, c'est tout sauf une surprise, évidemment.
Non, absolument. On a déjà commencé à en parler sur ce plateau. Le casting était déjà un peu joué, sauf que les dés ne sont pas totalement fixés, puisque, en effet, elle a été choisie par les dirigeants, mais elle doit encore obtenir majorité. Une majorité absolue, Jean-Marc.
Non, majorité.
Majorité.
Au Parlement.
Donc des 360 eurodéputés.
Ouais. Oui, mais enfin, comme elle a élargi sa majorité, que le PPE est quand même renforcé après les élections européennes, elle a, malheureusement pour moi, grande chance de...
Pourquoi vous dites malheureusement pour...
Parce que je n'ai pas trouvé que ça a été une présidente de la commission spectaculaire.
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on avait ce débat tout à l'heure. Jackie nous disait qu'elle avait plutôt bien mené, évidemment, la période Covid, la pandémie.
Elle a quand même manqué, pendant la période Covid, de beaucoup de transparence, notamment dans
Sur les vaccins.
Sur le vaccin.
Elle a manqué d'humilité un peu. Elle a pris un pouvoir qui ne lui appartient pas. Elle a pris un pouvoir qui ne lui appartient pas, parce que le pouvoir qu'elle détient, c'est une délégation du Conseil des chefs d'État et de...
Enfin, ceci dit, Jean-Marc, heureusement qu'on s'est mis d'accord sur la politique de vaccin.
Oui.
Ah oui.
Mais la façon dont elle l'a géré.
Ah oui, d'accord. Qu'il y ait quand même donc c'est la forme plus que le fond.
Et puis, je crois aussi qu'elle incarnait terriblement Bruxelles, avec tous les excès de la technocratie, etc.
Bah, pas plus que les précédents, enfin, je vois pourquoi...
Pour ma part, j'avais un candidat, mais je n'avais aucune...
Mario Draghi,
bah, évidemment.
Mais c'est le candidat que vous mettez à toutes les sauces, pour le poste de Premier ministre en France, pour la Commission européenne...
Il a réussi dans toutes les sauces, c'est-à-dire à la Banque centrale, et il a sauvé l'Italie.
Bon. Sauf qu'il a été contraint de démissionner, parce qu'il n'a pas réussi
Mais il avait fait l'œuvre, il avait fini.
Dominique, oui, Corona.
Deux inquiétudes sur Mme van der Leyen.
Oui.
Un, donc effectivement, elle aura une majorité puisque sa base électorale s'est un petit peu élargie.
Pardon, on lui prête l'intention d'aller dragouiller les conservateurs.
Mais justement, deux inquiétudes. Elle avait dit qu'elle ferait alliance avec les eurosceptiques, ce qui pose un problème sur les droits des travailleurs, sur la transition écologique, sur qu'est-ce qu'on veut de l'Europe et avec qui on s'allie pour effectivement avoir son poste de président de la Commission. Et deuxième grande inquiétude, c'est par rapport à la France. Aujourd'hui, où tous décident sur les commissaires européens, eh bien nous n'avons plus personne. Nous avons dit sur l'Assemblée nationale, il n'y a plus personne à Bruxelles, et donc il y a un risque d'affaiblissement de la France ou de la Commission européenne. Je pense que ça, c'est vraiment les deux risques que je vois et que nous voyons, nous, par rapport effectivement à ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec Mme van der Leyen. Donc vraiment, on est sur le qui-vive.
Alors celui qui est aussi très inquiet, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a tweeté « L'accord que le PPE a fait avec les gauchistes et les libéraux va à l'encontre de tout ce sur quoi l'UE est basée. Au lieu d'inclure, elle sème les graines de la division et les plus hauts responsables de l'UE devraient représenter tous les États membres et pas seulement les gauchistes. » Et les libéraux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jackie ?
Par les siens, parce que vous savez qu'on a reproché à Mme van der Leyen justement d'avoir octroyé à la Hongrie les fonds qu'ils pouvaient prendre si jamais ils donnaient des garanties en matière de respect des principes démocratiques, ce qui n'est pas complètement admis. Donc vous voyez, à peine il a eu ses fonds, que paf, il l'a gré. Moi, je trouvais que politiquement, elle s'est bien débrouillée. Il faut sortir du schéma d'analyse qu'on peut avoir en France. L'Europe, c'est, pour certains, il y a des compromissions, c'est des coalitions, c'est des négociations en permanence. Et donc, quand Mme van der Leyen fait le constat que les libéraux et Renew, eh bien, après que les gens aient voté, eh bien, cette partie-là s'amenuise, eh bien, elle tend des perches vers des partis qui se renforcent. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France, et tous les textes passent comme ça. Et d'ailleurs, elle en est le pur produit, parce qu'elle n'est pas le général de Gaulle, elle ne proposera pas d'être élue au suffrage universel direct. Elle restera la candidate de la majorité des présidents du Conseil.
Jean-Marc, pour conclure,
pas tout à fait d'accord avec le reproche que tu fais sur la Hongrie. Je trouve ça très malin, au contraire. C'est très machiavélique.
C'est un constat que je fais.
C'est assez malin, parce qu'en octroyant des fonds structurels à la Hongrie, elle a aussi signifié à la Hongrie qu'elle pouvait retirer les fonds structurels en cas de non-respect du règlement de copropriété. Ce qui a joué une ou deux fois dans l'affaire ukrainienne.
Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il faut avoir les moyens.
Oui, absolument. Mais quand même, sur le bilan économique, on ne peut pas dire qu'elle ait été exceptionnelle. Évidemment, c'est difficile d'avancer quand on est 27, beaucoup plus que quand on est tout seul.
Sur la défense, elle n'est pas parfaite non plus, puisqu'elle porte la position
sur le Green Deal. Voilà, exactement. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais quand même, face à l'Inflation Reduction Act, on nous avait promis monts et merveilles, l'Europe décroche.
Elle n'a pas le pouvoir.
Mais bien sûr.
C'est pas elle qui a le pouvoir.
Elle est la présidente de la commission, Je veux dire, et effectivement, ce que disait M. Sylvestre,
c'est déjà pas mal.
Soit les gouvernements lui donnent le mandat de le faire, ce qu'elle a fait sur les vaccins, soit on lui donne pas. Mais ça veut dire, est-ce qu'on veut transformer l'Europe? Quelle Europe nous voulons? Est-ce qu'on veut plus d'Europe intégrée, fédéraliste ou pas? Est-ce qu'on veut que la Commission européenne ait plus de poids? C'est ces questions-là derrière. Est-ce qu'on veut un budget européen?
Pour avoir du poids, il fallait s'appeler Jacques Delors.
Est-ce qu'on veut un marché des capitaux
et avoir des parrains derrière?
Pour avoir du poids, il aurait fallu depuis des années que la France ait plus de présence dans les instances européennes, et ça fait des années qu'on est moins en moins présent.
Quand on lit des titrailles, Ursula von der Leyen, l'hyper-présidence.
Non.
Je veux dire, franchement, factuellement, ça n'a aucun intérêt. Elle ne peut pas être hyper-présidente.
Par contre, Guillaume, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'avec cette dissolution, avec ce qu'a fait le président Macron.
Non, mais ça fait des années.
Derrière, mais ça fait des années. Sur place, ça s'accentue avec une nouvelle commission qui arrive. Et moi, je veux dire, on a beaucoup de craintes. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que la France n'est plus là.
Alors, justement, Dominique, vous nous tendez la perche. Les élections législatives, ça arrive, c'est dimanche. Donc, quoi de neuf aujourd'hui? Donc, on a une petite précision sur les retraites de la part du Rassemblement National, qui tout de même ne s'est pas totalement étendu sur les chiffres.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le RN qui dit. Alors, c'est Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, qui l'a dit ce matin. L'abrogation et les réaménagements proposés par le parti sur cette réforme des retraites coûtera 9 milliards d'euros à terme. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition du Rassemblement National du côté de l'UNSA?
Écoutez,
Dominique, de revenir alors à 62 ans, voire après, en fonction de ce que dira le fameux audit, 60 ans, est-ce que vous applaudissez? Je vous pose une question avec un brin de provocation.
Je vais d'abord commencer par vous rappeler que je vous ai dit ici sur le plateau à plusieurs reprises que les syndicats n'avaient pas gagné mais que le gouvernement avait perdu.
Ouais.
Il vient de tomber, l'addition vient de tomber là. Aux élections. Quand on a 3 millions de personnes dans la rue, qu'une réforme est injuste, injustifiée, et qu'il y a d'autres moyens de la faire, et on ne peut pas se battre contre son peuple. Et donc là, les élections ont tiré la fin de la partie. Que fait le Rassemblement National? Je comprends rien. Je ne comprends rien ce que veut le Rassemblement National sur les retraites.
Alors,
je vais vous expliquer pourquoi je ne comprends rien. Hein,
oui. J'ai entendu un certain M. Bardella dire « Je vais abroger la réforme des retraites. »
Voilà.
Premier point. Après, j'ai entendu « Je vais mettre, pour les carrières longues, 20 ans, à 20 ans, 40 ans de cotisation, partiront à 60 ans. Pour le reste, ça sera, effectivement, on verra comment on va faire progressif. » Et puis voilà. Maintenant, j'entends M. Tanguy qui parle d'âge pivot. Franchement, je comprends plus rien. Donc, c'est très simple. Est-ce qu'on, oui ou non, on revient sur la réforme des retraites? Est-ce que oui ou non, on abroge cette réforme?
Attendez, ils ont quand même été clairs sur le fait que, en effet, abrogation de la loi qui refait passer de fait l'âge pivot de 64 à 62, avec une progressivité des droits pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt
que ça veut dire
et qui ont 40 annuités.
Non, un âge pivot, le seul qui a employé le mot âge pivot,
c'est Édouard Philippe,
avec ce qu'on sait derrière, ce qui s'est passé sur la réforme systémique. Il n'y a pas d'âge pivot en France. Donc, je ne comprends pas.
Enfin, on repasserait de 64 à 62 ans.
C'est pas ce qui est dit. Donc, puisque c'est progressif, donc est-ce qu'on revient sur la réforme Touraine avec 43 ans de cotisation et on augmente la durée de cotisation et on reste à 62 ans ou pas? C'est pas ce que j'ai compris. Je vous dis, une fois de plus, je constate que le Rassemblement National n'est pas clair. Mais il n'est pas clair que sur ça. Il n'est pas clair sur rien, en fait.
C'est vrai que l'âge pivot a fait surface aujourd'hui ces dernières heures sans qu'on comprenne effectivement de quoi il était question.
Mais c'est marrant parce que le Monde faisait un papier cet après-midi dont le titre indiquait que le Rassemblement National est en train de récupérer tout un tas de mesures qui avaient été celles du gouvernement Macron.
Des mesures sur les retraites, pro-business.
Dominique a raison. On a l'impression qu'on mélange l'ensemble des différents projets, des deux grandes réformes qui ont été portées ces dernières années. Le principe de l'âge pivot, c'est pas du tout ce qui s'est passé sur la réforme systémique auparavant. Ils reviennent petit à petit sur ce sujet-là. Les sondeurs, de toute façon, vous disent une chose. Maintenant, le vote commence à se structurer. Et donc, sur les aspects économiques, un, déjà, les Français n'ont pas beaucoup de culture. Deux, ils n'ont pas beaucoup de certitudes. Et trois, eh bien, en leur disant tout et son contraire, ils vont se reporter sur d'autres sujets. Je pense que le Rassemblement National sur les retraites est en train d'adopter cette stratégie, puisqu'il dit tout et son contraire. Et surtout, les évaluations budgétaires, et là, je serais peut-être en désaccord avec vous, eh bien, c'est du grand n'importe quoi. Et juste, je vais conclure là-dessus. quand on parle des retraites, il y a un point qu'il faut leur demander en leur disant les retraites de base, monsieur le Premier ministre, vous pourrez faire des choses, mais les retraites complémentaires qui concernent, qui font 60% de la retraite de tous les cadres, et pas que les cadres supérieurs.
Pour les cadres.
C'est pas le gouvernement qui décide. C'est les partenaires sociaux. Et eux, quand le régime était en péril en 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont dit,
nous, on met en place un bonus-malus parce qu'on est garant de l'avenir du régime pour les générations futures. Et ça, le gouvernement ne pourra rien y faire. C'est un point important.
Jean-Marc, d'abord, sur les retraites.
Non, monsieur, le dossier retraite, c'est le dossier le plus important des programmes économiques que font les gouvernements et que proposent les programmes de gouvernement. Parce qu'à partir du moment où on adopte et on se cramponne au régime de la réponse, partition, eh bien, il faut bien équilibrer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, si on travaille un peu plus longtemps, si l'espérance de vie s'allonge, eh bien, il faut peut-être allonger la durée du travail. Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur ce truc qui est quand même basique...
La retraite par capitalisation.
On n'y arrivera pas. Bon, non, la retraite par répartition, ouais. Si on veut sauver la retraite par répartition, c'est un système assurantiel, il faut que les assurés sociaux puissent payer ceux qui...
Oui, mais ce que vous nous dites très souvent, donc, il faut autre chose. C'est qu'il faudrait passer...
éventuellement à plus de responsabilités personnelles, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs sous le manteau, à titre privé, ce que les gens qui ont les moyens font. J'ajoute aussi ça pour le Rassemblement national, le sénateur Malhuret a une expression, il dit c'est un artichaut le programme, c'est-à-dire qu'il effeuille au fur et à mesure que le jour passe, il enlève les feuilles, il va se retrouver à poil à la fin, parce qu'il est à la porte du pouvoir, il sait très bien que le segment de clientèle qui lui manque, ce sont les chefs d'entreprise et notamment les PME et les ETI.
Alors
donc
justement,
il ne fera rien, mais
justement,
pour pouvoir gêner ces
voilà, exactement. Parce que là,
donc il enlève. Mais il n'y a plus rien sur la fiscalité.
Quand il s'est adressé aux chefs d'entreprise,
c'est suppression des impôts de production.
La semaine dernière,
au sein du
MEDEF, exactement. Non, mais là, on sent, Dominique, que le Rassemblement national, aujourd'hui, on peut le dire, a une politique de l'offre et qui va même plus loin que le gouvernement actuel, puisque lui propose de supprimer complètement la CVAE et
mensonge,
la C3S.
Mystification, mensonge. On se fait passer pour un parti qui est projet travailleur et on va faire l'inverse. Par exemple, sur les retraites, vous avez raison, M. Sylvestre, il faut effectivement des actifs qui utilisent pour les retraités. C'est ça, effectivement, notre système de répartition. Mais si on empêche, par exemple, les étrangers de venir travailler en France alors qu'on a besoin de main-d'œuvre, comment...
Alors, ils sont revenus dessus aussi, puisqu'ils parlent d'une immigration de croissance.
Alors, attendez, ils parlent d'immigration de croissance. J'ai entendu aussi plus de binationaux dans la fonction publique que sur les postes stratégiques.
Ça sera anticonstitutionnel.
On verra. Je dis ce qu'il propose.
Ça ne passera pas.
Il propose la fin du droit du sol. Il propose double frontière. Mais comment on fait? Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un grand groupe industriel de grande distribution qui a commencé à dire attention. Nous, on a besoin de main-d'œuvre. Puis comment on fait dans les hôpitaux si on n'a plus les médecins? Comment on fait si on n'a plus les aides-soignants? Étrangers, des gens qu'on ne peut pas se soigner, comment on fait?
Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Effectivement, très très vite, on a vu la main-d'œuvre d'Europe de l'Est.
Patrick Martin, du président du MEDEF, le dit lui-même. Donc, c'est tromperie, le Rassemblement National. C'est tromper les Français.
Et le Front Populaire.
C'est tromper les travailleurs.
Oui, parce qu'on va passer le Front Populaire au crible aussi.
Le Front Populaire a fait des tromperies avec un coût trois fois supérieur.
Attendez, c'est quoi la tromperie du Front Populaire?
On a un
rappel des titres. Et puis vous allez pouvoir vous écharper sur le programme du Front Populaire dans deux petites minutes sur BFM. Allez, 19h31.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h34, les experts du soir sont très animés ce soir. Jean-Marc Sylvestre, Dominique Corona, Jacques Isabello et bien sûr avec vous, Guillaume Paul. Donc on a parlé du programme de la droite et de l'extrême droite. On va bien sûr parler du programme tout de suite du nouveau Front Populaire, même si quand on regarde certains porte-parole, ça porte à confusion, ça ressemble plutôt à l'ancien Front Populaire. Mais bon, ceci étant dit, qu'est-ce que ce programme vous inspire, Jean-Marc ?
Lequel ?
Lâchez tout, allez-y.
Il ne m'inspire pas grand-chose, puisqu'il ne sera pas appliqué. Donc on peut dire tout et n'importe quoi. Il ne sera pas appliqué. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il prévoit des dépenses qui sont
excessivement élevé qu'on ne peut pas financer. Le lendemain de l'arrivée du Front populaire, on a le FMI qui frappe à la porte. Hein.
Bon. Alors d'abord, c'était 250 milliards d'euros. Après, c'était 100. Là, ils se sont mis d'accord à 150.
Oui, c'est ça. Bah, oui, enfin,
c'est, ça, pas, c'est l'estimation.
Mais c'est vrai que
c'est pas une conversation
ce que
marché.
Je reprends de Jean-Marc, c'est moi ce qui me choque. Et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre Dominique parce que Dominique, ses élus sont dans les entreprises et sont attachés à la bonne santé des entreprises. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les partenaires sociaux, c'est indispensable. Et là, on a des responsables qui disent « Non, mais attendez, on déconne, les gars. Hein » vous rappelez le Front populaire de Blum ? La gauche, on se met toujours d'accord pour être au pouvoir, mais on n'est jamais, on n'appliquera jamais. Enfin, c'est choquant par rapport aux gens. Les gens, ils trouvent ça sérieux, l'acte de voter. On n'arrête pas de leur dire « Ne vous abstenez pas. » ils nous disent qu'ils vont se déplacer à 65%. On va battre des records. Et on a des gens qui disent « Vous savez, comme le disait François Mitterrand, il avait il disait « L'économie, de toute façon, à la fin, ça se termine toujours par augmenter le prix du paquet de cigarettes. » C'est pas sérieux. On a vu ce que ça nous a coûté. Et donc, par exemple, pour les entreprises, augmenter le SMIC de 15%, on sait que c'est une barrière à l'entrée pour tous les emplois qu'on veut désmicardiser. Donc, quand on dit
hélas, oui,
on
augmente de 80% des demandeurs d'emploi
et on désmicardise la France,
au mieux le bac. Oui.
Voilà, c'est clair-obscur. C'est vraiment des choses.
Non, mais j'irai pas
sur le reste. Moi, j'aimerais discuter avec Dominique là-dessus. Sur les aspects qui concernent les entreprises, ça va être effrayant, déstabilisant. On ne réindustrialisera et on va empêcher les jeunes et les moins qualifiés de rentrer sur le marché du travail. Et on va se retrouver dans une époque.
Dominique, sur ce que Jackie vient de dire, quand on renforce le coût du travail, il y a évidemment un risque d'augmenter le chômage. Vous êtes d'accord avec ça ?
Quand on durcit les règles du chômage, il y a un risque de faire baisser le chômage. C'est ce qu'on m'a dit.
Oui,
donc c'est la même chose.
Ah d'accord.
Je vois pas. Attendez.
Donc un SMIC à 1600 euros net.
J'étais très jeune en 81. Ouais. Cinquième semaine de congé payé. Les charrues sur la place de la Concorde. La retraite aux 60 ans, les 39 heures. C'est les grandes avancées sociales. Il n'y a pas eu de grandes avancées sociales depuis. Depuis, c'est des sangs et des larmes. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais quand même. Cette année, on n'a pas augmenté les impôts, sauf des malades. Participation forfaitaire doublée, franchise médicale doublée. On n'a pas, effectivement, on a demandé aux travailleurs de mettre 100 euros pour leur formation de ticket modérateur. 100 euros pour un ouvrier qui est au SMIC, c'est énorme, il ne peut pas se former. Qui a fait ça ? Le gouvernement actuel. On a fait une réforme des retraites extrêmement dure, injustifiée, qui n'a fait demander des efforts qu'aux seuls travailleurs de ce pays. Rien n'a été demandé aux entreprises, pas un centime. Et vous avez en face, maintenant la dernière, c'est sur les chômeurs. On explique que les chômeurs, ils sont effectivement, c'est eux la faute de tout. Et là encore, c'est pas équilibré. Si on veut vraiment qu'on soit sur l'intérêt général, il faut qu'au bout d'un moment, tout le monde comprenne qu'il faut faire des efforts. Et que les efforts ne peuvent pas être que d'un sens, dans un seul sens. Je vais toujours dire la même chose. Vous avez 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Monsieur Sylvestre, vous qui êtes quelqu'un de foncièrement...
On vous entend sur le programme du Front populaire, Dominique.
Non mais, par exemple, 75 milliards d'euros de cotisations sociales aujourd'hui, qu'on donne aux entreprises. C'est une politique publique. On doit regarder les effets de cette politique publique.
Non mais attendez, on n'est pas là pour faire le bilan des Emmanuel Macron.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement redonner de l'espoir. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a besoin de pouvoir d'achat.
Ce qui me désole, ce qui me frappe dans les débats qui tournent autour des programmes, que ça vienne des syndicats ou des partis politiques, c'est qu'ils le tournent en permanence à 90% autour des dépenses. C'est-à-dire qu'on redistribue. Oui. Vous êtes des jukebox. Oui. Vous redistribuez de l'argent sans savoir qu'il y ait quelqu'un qui mette des pièces dans la machine. Un débat national sur les législatives, ça devrait être un débat sur les créations de richesses, comment on fait une véritable politique d'offre, comment on crée de la richesse avant de pouvoir la redistribuer, comment on fait de la compétitivité, comment on augmente la productivité, il y a le protectionnisme.
Non, mais pourquoi toutes les politiques libérales, effectivement, n'ont pas réussi ? C'est ça la vraie question.
Parce que vous avez une culture, depuis des années, j'entends, il faut aller sur la politique, effectivement.
Non,
mais
la question, effectivement,
vous vivez de la
sur le programme du Front populaire, sur les grands équilibres macroéconomiques du programme.
Est-ce qu'il faut, par exemple, des syndicats de chômeurs?
Pardonnez-moi.
Est-ce qu'il faut
avoir la politique fiscale en cours? Ne sont pas intéressés aux résultats du syndicat, aux résultats. Vous êtes intéressés aux résultats distributifs. Vous n'êtes pas intéressés aux résultats de production.
Je vous donne, par exemple, je vous donne un exemple sur les retraites.
Vous devriez
sur les retraites, nous n'avons eu de cesse de faire des propositions sur les recettes. De cesse.
Non, mais oui, mais les recettes, c'est des impôts. C'est des impôts.
Alors, des impôts.
Faites des propositions sur, sur la qualité.
Oui, alors, parlons des impôts. Je n'entends dire que la France est la championne du monde des impôts. C'est pas vrai sur les impôts sur le revenu, c'est faux.
Prélèvement obligatoire.
Oui, mais c'est pas pareil. Le prélèvement obligatoire, c'est des ressources pour la sécurité sociale dont nous avons tous besoin. Et donc, c'est pas la même chose. Et donc, ça veut dire effectivement que les cotisations sociales financent notre protection sociale, financent notre bien commun. C'est un peu différent. Et quand j'entends dire sans arrêt les impôts, on ment aux Français. Il faut dire la vérité, les impôts, c'est pas vrai.
Est-ce que le nouveau Front populaire propose un programme qui vous semble convenir à la France aujourd'hui?
C'est difficile de le dire comme ça. Nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est, en tant que syndicaliste, que les travailleurs soient respectés, qu'il y ait effectivement du pouvoir d'achat et qu'il y ait des équilibres qui soient donnés, effectivement, entre les efforts de tous et de toutes.
Donc, est-ce que c'est un programme équilibré?
Aujourd'hui, le programme que nous voyons, effectivement, c'est que, oui, il faut donner du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut de réformer la fiscalité en France? Oui. Oui, il faut réformer la fiscalité en France. Est-ce qu'il y a effectivement une tranche supplémentaire au lieu de 4 000 euros? Oui.
Donc on remet l'ISF, on augmente le SMIC à 1
500 euros. Bien sûr, parce que sur l'ISF, il y a aussi une autre chose, Audrey. Sur l'ISF, c'est aussi le signe que vous envoyez. Oui, c'est 5 milliards, c'était 5 milliards d'euros. Oui. Voilà, c'est pas non plus le nirvana.
Non, attendez, là on veut recréer un ISF à 15 milliards d'euros, c'est-à-dire le double, grosso modo, de l'actuel IFI.
Alors on n'a pas très bien compris, Guillaume, comment est-ce qu'on a
Que le Front National veut aussi un ISF, en enlevant la résidence principale. C'est-à-dire que grosso modo, excusez-moi, quand vous avez un patrimoine extrêmement exceptionnel où vous habitez à l'intérieur, vous ne serez pas taxé. Hein. Vous voyez là encore qui on aide. On aide les plus riches, hein, avec ça. Donc c'est ça, la difficulté.
Bon, moi, je voulais qu'on parle, moi, de l'augmentation de 15% du SMIC. Hein. Il y a 2 300 000 TPE 1400
à 1600
en
euros net. Hein.
Donc le boulanger, demain, chez qui on va acheter sa baguette, et dont on sait qu'il doit créer 30 000 euros de valeur ajoutée pour créer son premier emploi, cette augmentation-là, quels sont les effets? Les effets sont dévastateurs. Et toutes ces entreprises qui vont grossir petit à petit et qui vont faire des calculs avec leurs conseils en disant qu'il faut placer le centre de production de l'autre côté de la frontière. Vous savez, Dominique, je vais vous donner une étude. Moi qui, dans toutes les études, m'avais estomaqué un jour. Vous connaissez Benaouda Abdedaïm peut-être, qui est un journaliste de cette antenne. Il a sorti une enquête qui venait d'un centre étranger du nord de l'Europe, et il a dit au nord de l'Europe, plus on accorde finalement du crédit, plus on accorde de l'attention, plus on accorde de l'amour aux grands dirigeants d'entreprise, plus leur politique devient sociale. Et donc, en gros, il a dit, si vous dites aux gens qui développent leur business dans ce pays, on vous aime, eh bien, ils deviennent sociaux. Nous, on passe notre temps à leur dire qu'on les déteste, de se casser ailleurs.
Ils ont manqué d'amour depuis des années. S'il y a bien des gens qui ont manqué d'amour, c'est bien les travailleurs. Je ne crois pas, moi, que les employeurs aient manqué d'amour. Hein. Ou alors, on ne vit pas la même planète.
Oui, mais parce que vous prenez toujours l'exemple de 3-4 milliards.
Pas du tout.
Vous avez l'impression que les 2 millions... Moi, je suis patron de TPE, je l'ai été toute ma vie. Les 2 millions 300 000 dirigeants de TPE, on travaille avec nos salariés, on construit, on développe avec nos salariés. On n'est pas les gens déconnectés et une augmentation de 15% du SMIC.
Écoutez-moi, je crois que vous ne m'avez pas écouté. Quand je parle des exonérations de cotisations sociales, par exemple, je dis que c'est une politique publique. Je n'ai jamais dit qu'il fallait les supprimer pour tous et pour toutes. Jamais. Je dis simplement qu'il fallait regarder.
Non, mais Dominique, on parle du programme du Front Nouveau, Front Populaire. Je ne parle pas de vous.
Je parle de ça. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut aimer les employeurs. Oui, il faut aimer les employeurs. Bien sûr, sans entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de travail. Bien sûr que oui. Mais encore faut-il effectivement que les politiques publiques qui soient mises en place derrière fonctionnent. Est-ce qu'elle fonctionne ?
Non, mais c'est un autre débat. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les jeunes, qui par définition ont moins d'expertise, moins d'expérience, vont forcément rencontrer encore plus de difficultés pour trouver un premier emploi ?
Mais écoutez, j'en suis pas certain. Parce que d'un côté, vous augmentez aussi le pouvoir d'achat des gens. Vous avez effectivement plus de consommation. Alors après,
non, pas forcément de consommation. Vous y pouvez épargner cet argent, ce surplus.
Vous savez, aujourd'hui, vu l'état effectivement des finances des travailleurs au SMIC, je ne pense pas qu'ils puissent
épargner. L'idée fondamentale, c'est ce chiffre qu'on rappelle.
Et peut-être que vous avez demandé l'intitulé, mais je ne crois pas que
vous avez pas la hausse du chômage. Je pense que ça va augmenter le travail au noir.
Oui, sûrement.
Ces effets-là, ça va augmenter, renforcer le flux de migrateurs, de migrants illégaux.
Et donc, ça va déstabiliser l'équilibre de certains régimes de retraite.
Parce que les chefs d'entreprise, ils sont pragmatiques.
Illégaux, mais pourquoi ? Parce que ça veut dire que les employeurs embaucheraient des gens non déclarés ?
Bien sûr. Mais on le sait. Attendez, moi, je suis patron de TPE. Enfin... Il y a des gens qui abusent. Il faut le dire, on ne va pas dire l'inverse. Mais on sait très bien que plus on augmente le coût du travail, plus on fait ça. Vous parliez des retraites tout à l'heure. On connaît le problème. Aujourd'hui, c'est le besoin de financement des régimes qui bénéficient pas de subventions d'équilibre. Les régimes de retraite du privé, vous le savez, vous êtes au corps. Bon, ceux-là, ils sont à peu près à l'équilibre. Vous savez, ceux qui ne sont pas à l'équilibre.
Oui, et pourquoi ils ne sont pas à l'équilibre?
Comme on sait que la partie cotisation sur les 380 milliards des régimes de retraite, la partie subvention qui représente à peu près 250 milliards, elle se réduit en plus. Donc si ces entreprises-là, on leur met la pression en augmentant le coût du travail, eh bien les équilibres sociaux
parce
derrière.
Parce que vous allez augmenter les recettes.
Que moi je défends.
Les cotisations sociales.
Que je défends comme vous.
En
tout cas, c'est pas le vous. Ce programme du nouveau Fonds populaire.
Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les travailleurs ont montré un signe et qu'il y a une désespérance dans le pays et qu'il va falloir y répondre d'une façon ou d'une autre.
Et que il ne faut pas rester au SMIC.
Et si personne n'est capable de faire de l'intérêt général et de se mettre autour d'une table, ce que nous on prône à l'UNSA, on n'y arrivera pas. Quels accords ont été créés ? Quels ANI ont été créés depuis des années ? Plus rien. Il n'y a plus possibilité dans ce pays
partage
de discuter.
Oui, mais c'est vraiment. Non, mais alors justement.
Il faudrait aujourd'hui, franchement, qu'il y ait aussi un MEDEF.
Dominique, oui, non, mais d'accord, on vous entend. Mais donc.
Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas.
Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire et sur cette question presque philosophique, que vous avez commencé à avoir avec Jean-Marc sur faut-il un État-providence ou faut-il un État-gendarme. Je vous rappelle cet exemple quand même assez dingue de la Belgique qui, en 2010, a connu une période de 541 jours. Sans gouvernement en exercice, que s'est-il passé ? L'économie ne s'est jamais mieux portée. Une croissance de 2%, c'est-à-dire une des meilleures performances de la zone euro. Est-ce que ça veut dire que moins l'État est interventionniste, mieux les choses se passent ?
Excusez-moi, mais il me semble quand même qu'en Belgique, il y a l'indexation des salaires sur le SMIC, non ? Sur l'inflation ?
Oui.
Me semble-t-il.
Comparaison n'est pas raison, disait Edgar.
Vous voyez comme quoi vous voyez des fois.
Mais ça permet au moins d'être optimiste pour.
Je ferai.
Quelques petites minutes.
De notre maître philosophique à tous.
Oui, absolument.
Quelques petites minutes pour parler, alors pour sortir un peu de la politique, cette étude qu'on a vu passer aujourd'hui qui est intéressante. Vous savez qu'on parle beaucoup de concurrence sur les grandes lignes ferroviaires, sur le TGV en France. La concurrence n'est pas très forte aujourd'hui face à la SNCF. Et on a cette étude aujourd'hui qui nous dit que d'ici quelques années, en fait, la France devrait être sur le marché des trains à grande vitesse, le marché le plus concurrentiel d'Europe. Alors que pour l'instant, honnêtement, c'est pas vraiment ça. Je regarde Jean-Marc parce que je sais que lui emprunte la concurrence de temps en temps.
Le plus souvent possible d'ailleurs.
Carrément.
Non, mais c'est vrai, c'est que si vous introduisez de la concurrence sur le réseau SNCF, vous allez régler en une partie des problèmes de la SNCF.
Non, mais
sans aller jusqu'à dire un gros mot qui s'appellerait la privatisation. Parce que dans ce pays, la privatisation, c'est un gros mot.
Pour Jacqueline, non, a priori, pour
c'est vrai
un peu
faut,
plus.
Oui. Il faut. Et la concurrence, c'est un facteur de progrès, c'est un facteur de création de richesse.
L'étude,
le consommateur en profite, la technologie en profite, et les salariés en profitent.
Ouigo en Espagne.
Oui.
Perte 36 millions en 2022, SNCF. Hein. Pour aller concurrencer. Justement, le TGV espagnol.
Oui, qui, lui, gagne de l'argent.
36 millions d'euros de déficit.
Et qui va se lancer en Italie, vous avez vu ça.
Il y a un train italien en France. 34,5 millions d'euros de pertes.
Mais c'est pas lié au
Alors
système.
Qu'avant, vous aviez un système, monsieur Sylvestre, qui était quand même bien, de coopération européenne, qui vous permettait effectivement d'aller d'un point à un autre. Là, ce sont les États, finalement, qui se font concurrence. Donc, nous-mêmes, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent, et qu'à la fin, on y gagne. Franchement, j'en suis pas certain.
Jacques, pour trancher sur le sujet.
Je suis pas un fan de l'énorme concurrence. Rappelons-nous que l'histoire des compagnies ferroviaires en France, eh bien, au début du siècle, elles étaient parsemées, elles étaient nombreuses, et pour des raisons d'investissement, de sécurité, de tout un tas de choses, même de faire venir la main-d'œuvre qualifiée, on a décidé de créer un service public. Moi, ce que je demande à la SNCF, c'est qu'elle arrête de s'enfermer dans des schémas qui font que, moi, à Noël, je vais vous faire une confidence, vous voyez, je l'ai envoyé à une copine ministre. Moi, j'ai perdu ma maman à la fin de l'année, et quand ils font la grève et que mon père peut pas venir chez moi pour cette période importante, ça me rend dingue. Alors que nous, on a une partie de la famille. Et ça me rend dingue, et c'est pas possible. Et il y a plein de gens que ça rend dingue. Et donc, qu'ils arrêtent de faire ça, parce que ils font bien leur travail, c'est sécure, ça va vite, il y a de beaux ingénieurs, on doit être fiers de ce truc-là, sauf qu'ils se font dépasser par une espèce de haine qu'ils peuvent susciter pour des raisons qui ne sont pas logiques. Donc, pour revenir sur l'aspect économique, moi, je suis pas pour la privatisation de tous ces grands services-là, et j'aimerais qu'ils reviennent à plus de modération et de raison.
Mais alors, en revanche, vous êtes pour les périodes de carence, à l'image de ce qui se passe en Italie, où on impose des périodes pendant lesquelles on ne peut pas faire grève.
Il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Les gens qui travaillent à l'autre bout de la France et qui ont décidé de délocaliser leur résidence principale, ils reviennent tous, ils deviennent dingues, ils n'arrivent pas à trouver un train qui vient à l'heure, parce que les petites lignes, ça ne fonctionne pas. Donc si un peu de concurrence, ça permet de s'appuyer sur la SNCF pour développer les petites lignes, moi je dis oui.
Le fait est qu'on y va, mais la SNCF y va reculant quand même.
C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, on a une chance, je pense que vous avez raison, c'est d'avoir un service public, la SNCF, intégré. Si on désintègre effectivement ce que nous avons, ça veut dire que c'est le fret derrière, c'est la petite ligne, c'est tout ça qu'on aurait pu la financer. Si on engage la concurrence, moi je préfère effectivement qu'on puisse avoir un service public fort, effectivement avec des petites lignes qui fonctionnent, avec effectivement des TGV qui soient à l'heure, etc., plutôt que d'aller se battre sur la concurrence avec d'autres États. Franchement, je pense qu'on a autre chose à faire, et je pense que la chandelle, franchement, c'est pas très bon.
Jean-Marc, pour conclure.
Ça ne va pas être une conclusion, mais je pense qu'on a effectivement un réseau ferré extrêmement dense et d'une grande qualité. Je trouve ça dommage qu'il ne puisse pas être utilisé par d'autres acteurs.
Qui coûtent en entretien, en rénovation. Voilà.
Parce que, en fait, ça permet d'amortir ce réseau ferré sur un plus grand nombre d'activités et sur un chiffre d'affaires plus important.
Et je vous rappelle qu'il y a un poste à prendre, puisque Jean-Pierre Farandou termine son mandat.
Voilà. Vous savez que. On fait des cadeaux quand même pour les péages, pour les trains étrangers en France. Hein. Oui. 30% de moins que la SNCF, me semble-t-il. Alors que, par exemple, le péage en France pour faire pour les rails, c'est 16 euros par train et par kilomètre, c'est 5 euros en Italie.
Et c'est trop cher pour les gens qui n'ont pas les moyens. La SNCF, ça devrait être le moyen de transport privilégié de gens qui n'ont pas de patrimoine. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Les gens qui prennent un Inouï, mais on va dire, dis donc, vous savez, c'est cette fameuse blague en disant, cette fameuse pub qui dit comment ça, mais ton copain Audric, il s'est acheté une poire pour dire demain il y aura plus de fruits, ça sera un produit de luxe. Aujourd'hui, prendre un TGV Inuit, c'est un produit.
Non, mais ça devrait être aussi le moyen de transport favori pour les gens qui veulent voyager décarboné. Alors que par contre,
la concurrence, Jean-Marc Sylvestre,
on a certaines lignes d'avion qui sont moins chères que la ligne de train.
La concurrence suisse et italienne n'est pas forcément moins chère, un petit peu quand même, que la concurrence. TGV, mais la qualité de service, elle est autrement meilleure.
Je ne suis pas sûr que sur les trains allemands, ce soit le même cas. Hein, mais les trains allemands, je ne suis pas sûr.
Il n'y en a pas encore.
Non, mais vous savez, vous pouvez partir effectivement de Paris à Strasbourg pour un train allemand. Et dernier point quand même aussi sur les bénéfices des entreprises étrangères qui vont prendre notre réseau ferré, ils ne vont pas payer en France les impôts, etc. pour les infrastructures. Hein. Ça pose aussi une autre question.
Bon. Voilà, en tout cas pour ce rapport qui est sorti aujourd'hui. Un peu moins de 3 minutes, l'extra time, comme tous les soirs, vos avis du soir, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes chrono. Jean-Marc, vous voulez commencer? Allez.
Oh non, mais là, vous allez tous vous...
Non.
Je voulais vous... Comme coup de cœur, Bernard Arnault. Je trouve qu'il est gonflé, je trouve qu'il a raison, je trouve que c'est un des grands patrons. Il met le pied, un petit bout de pied, chez Richemont, qui est le plus grand du monde. C'est son rêve depuis tout le temps, je pense. Il n'a pas terminé. Je trouve qu'il faut qu'on arrête de lui taper dessus, quoi.
Bon,
On verra ce qu'il fait chez. À titre personnel, il est entré au capital de Richemont. Attention. Hein,
oui, voilà, mais n'empêche que. À titre personnel, il est rentré au capital. N'empêche que la LVMH a progressé en bourse.
Absolument.
De presque 2%.
Absolument, ce soir. Absolument.
Coup de sifflet et
coup de sifflet un partout entre la France et la Pologne, c'est fini. Jackie, 30 secondes, c'est à vous.
Non, je trouve que cette campagne ne met pas en valeur les économistes parce qu'on n'arrive pas à trouver une vérité économique.
Ils se déchirent entre eux.
Éclairerait un peu plus les Français. En France, on n'arrive pas à avoir un institut de référence comme le Central Planning Bureau peut le faire aux Pays-Bas ou l'Institute for Fiscal Studies au Royaume-Uni, pardon pour mon accent français. Ça éclairerait les gens et ça leur permettrait de faire des choix solides en ce qui concerne l'économie. Et on n'a pas ça en France et je le regrette.
Eh bien, voilà une proposition que les partis devrait récupérer.
Parce qu'on n'a pas le respect des faits et des chiffres. Bon.
Dominique, pour clore le bal.
Et moi, je vais rendre un hommage à un professeur à qui on a dit au revoir ce matin à Avignon. C'est un professeur d'histoire qui m'a appris à prendre des interviews en 81, c'est il y a quelques années, qui m'a appris effectivement à lire entre les lignes un article de presse qui a fait de moi un citoyen éclairé. Donc on y a dit un dernier revoir aujourd'hui et je voulais lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que je pense que l'école mérite mieux que de dire du vouvoiement ou de dire effectivement il faut de la blouse ou de l'uniforme. Je pense que l'école, elle mérite qu'on chérisse nos professeurs. Parce que si on veut des citoyens éclairés, il faut que l'école soit forte, l'école laïque de la République. Et je pense que les partis devraient aller beaucoup plus loin dans leurs propositions.
Voilà pour cet hommage que vous rendez ce soir à votre professeur, ancien professeur. Merci beaucoup, Dominique. Voilà pour vos avis. Merci, messieurs. 19h55, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les trois, Jackie Isabello, Jean-Marc Sylvestre et Dominique Corona. À très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Oui, c'est terminé, mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, on se retrouve demain soir.
On sera là demain, jeudi. Non, on est que mardi aujourd'hui.
Oui, mercredi.
Ah bah demain, donc c'est mercredi, voilà, j'anticipe. C'est comme ça.
Le on jour sera des là enfants. Quand même.
Absolument. Tech & Co dans un instant. Bonne soirée et donc à demain, mercredi.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.